Bonsoir. Good evening, everybody. If you'd like to take your seats, there are some seats here near the front. Bonsoir. Mon nom est Véronique Bélanger et je suis doyenne adjointe à la faculté de droit à McGill. J'ai le plaisir d'organiser avec mon collègue Frédéric Bachan cette série de conférences de formation continue. Je vous souhaite la bienvenue à la troisième conférence de la saison et j'en profite pour vous souhaiter à tous une année 2015 remplie de paix, de santé et de joie. As many of you know already, our focus this year is on law's relevance to key themes that are at the heart of some of the most important policy debates in our time. Tonight, we discuss the impact of novel science on the law. I may be accused of saying this before each lecture in our series, but let me say to you now that you are and we are in for a real treat tonight. We will hear tonight from two McGill professors, one from law and the other from psychology and neuroscience. This lecture, therefore, is truly interdisciplinary, an approach that is more and more common in universities because it offers fresh perspectives to better understand an increasingly complex world. We believe also that as legal practitioners and legal educators, we can also benefit from interdisciplinary inquiries and approaches. Daniel J. Levitin, whom I will introduce more fully in a few minutes, will be our first speaker. He will present ideas discussed in his latest book entitled The Organized Mind, Thinking Straight in the Age of Information Overload, which many of you may be already familiar with given the extensive media coverage it received. Professor Levitin has generally accepted to discuss with us tonight some implications of his work for legal professionals. And for those who have not had the chance to read the book yet, or his other books, you have an opportunity to buy a copy at the table that is located right outside the door here. And I suggest those of you who are interested to do so during the break, as the table will no longer be there after the presentation. Professor Levitin's presentation will be followed by a commentary from Professor David Lametti and a Q&A. Après la pause, la professeure Lara Khoury, professeure à la faculté, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà puisqu'elle a déjà participé à nos conférences, présentera les résultats préliminaires d'une recherche entreprise en collaboration avec le professeur Vergès de l'Université Pierre Mendès, France, à Grenoble, sur le traitement judiciaire de la preuve scientifique en France et au Québec dans le domaine de la responsabilité civile. La présentation sera suivie d'un commentaire offert par le professeur Bachan et d'une période de questions. Before we begin with the formal part of our program, let me make a few housekeeping announcements. If you haven't done so already, please shut off anything that rings or buzzes. For those of you attending for the first time, please note that we are live streaming the lectures in two overflow rooms so that during the question and answer period, students will make microphones available to you in the moot court. It's important that you use the microphones so that participants in the overflow rooms can hear your questions. There will be one break this evening, about midway through, around 7:30. During the break, you can use washrooms that are located in the basement, and you can also get some snacks from the table located in the atrium. The table is manned by law students. Tonight, the proceeds will go to support the McGill Law Model United Nations Club. The McGill delegation will be representing Panama this year at the Harvard University Model UN Simulation next month. In the next week or so, you will receive an email with your attestation certificate. If you have not yet done so, please make sure that you check in at the table in the atrium during the break so that we know you're here and we can send you your attestation. So, allow me now to introduce to you more formally Daniel J. Levitin. He is the James McGill Professor of Psychology and Neuroscience at McGill. He also holds associate appointments in the School of Computer Science, the Faculty of Education, the Department of Neurology and Neurosurgery, and the School of Music. And after tonight, we'll have to see about law. In 2006, he received the Principal's Teaching Prize at McGill, the university's highest teaching honor. Dr. Levitin earned his BA in cognitive psychology and cognitive science at Stanford University and went on to pursue a PhD in psychology at the University of Oregon. He has been a visiting professor at Stanford, Berkeley, and Dartmouth. Dr. Levitin has contributed to The Atlantic, The New York Times, The Wall Street Journal, and is a regular guest on NPR and CBC Radio. He is the author of 3 best-selling books, This Is Your Brain on Music, 2006, published in 19 languages, The World in 6 Songs, 2008, which I actually found under my Christmas tree this year. And his latest one, The Organized Mind, which I mentioned earlier, has been named by Oracle and Microsoft CEOs, attorney Robert Shapiro in the Wall Street Journal as among the year's best books. Professor David Lametti from the Faculty of Law will offer a commentary following Professor Levitin's presentation. Professor Lametti is associate professor at the faculty. He was a founding member of the Center for Intellectual Property Policy and its director from 2009 and to 2012. He teaches and writes in the areas of civil and common law property, intellectual property, and property theory. Professors Lametti and Levitin both contributed to an interdisciplinary course which provided students from 5 McGill faculties, arts, engineering, law, music, and science, with an opportunity to study and develop business models and policy papers for the music industry in a rapidly changing environment. So please join me in welcoming our first speaker, Professor Daniel Levitin.
Thank you very much. I'm delighted to be here. Bonsoir, bienvenue. I thought I would begin just by talking a little bit about where it seems as though we are today in terms of information overload and what that means, at least from a neuroscientist's perspective. Because I'm overloaded, I've made some little notes for myself. We take in 5 times as much information today as we did in 1986. That's the equivalent of 174 newspapers every day, read cover to cover. In our leisure time, we take in 34 gigabytes of information. We've created a world that has 300 exabytes of information. If you don't know what an exabyte is, I didn't either. I had to look it up. It's a 300 followed by 18 zeros. And that enormous amount of human-made information, 300 exabytes, if you were to put each piece of information on a 3x5 card like this, just your share, one person in this world's share of all that information, would cover all of Connecticut and Massachusetts combined. That 300 exabytes, just to put it in perspective, according to Google estimates, 5 years ago, there were only 30 exabytes of human-made information. So in the last few years, we've created more information than there was in all of human history before that. If you went shopping in 1976, the average supermarket had 9,000 distinct items, distinct products. Today, that supermarket sells 40,000 items. And because the average shopper gets most of their shopping done in just 150 items, you've got to ignore 39,800 items every time you go grocery shopping just in order to fill your cart. So these are just some figures to give a flavor for how much information we're being asked to deal with. And maybe you figure, well, you can't possibly keep up with all of that stuff. So at least when you get home at the end of the day, you can watch some YouTube videos and keep up with what's happening in the world of YouTube. But you should know that every hour that goes by, 6,000 hours of new videos are uploaded to YouTube. So for every hour of YouTube video you watch, you're already 5,999 hours behind. I think this qualifies as information overload. I would say, as a neuroscientist, information overload is a mismatch between how much information the brain can consciously handle and how much it is exposed to. And I think all of us are feeling that these days. We're being asked to do more and more in our home life and in our personal lives. Just think back not so long ago when a whole host of things that you now take for granted that you have to do used to be done by other people. It used to be that when you had to take an airline trip, a professional travel agent would make your reservations, right? We don't do that anymore. We're expected to learn to navigate the Byzantine system of fares and rules and routes, and you know, software helps. But at the end of the day, for most of us now, you're the one that's making the reservation. And it used to be there were professionals that checked you in once you got to the airport. Now you're supposed to do that. Getting back to grocery shopping, there used to be professional baggers. And they had some training about how to load up a bag so that it wouldn't break and distribute the weight and stuff. You're supposed to do your own bagging, and in many shopping areas, you're supposed to do your own checkout, too. Looking up a telephone number, there used to be specialists for that. Pumping your own gas. All of these things are part of a gray market kind of shadow economy that doesn't get reported in the country's gross national product. Things that used to be part of the counting of the GNP, no longer are they part of the GNP because big corporations have offloaded all these tasks that they used to do for us for free or for some incremental cost for their service or product. They've offloaded it all onto us. And it's no wonder, I think, that we all feel as though we can't keep up. By the way, the average Canadian says, getting back to information overload, the average Canadian says their garage, if they have one, is too full to pull a car into it, too full of stuff that they've acquired. And you can think of stuff as a kind of information. Well, in the time we have together, I thought I'd talk about four big ideas. First, I want to talk about multitasking. Next, organizing decision-making in medical contexts, because I think the current state of medicine provides an interesting crucible for understanding decision-making. And what to teach our children in this internet age, an age of information overload. And I'd like to conclude with some thoughts about what all this implies for lawyers and the legal profession. I don't pretend to know much about the law, and so I hope you'll indulge me and allow me to express some naive outsider views. Hopefully anything I say that's ridiculous, Professor Lametti will sort out. With all of the demands on our time, I think all of us, as I said, feel like we're being asked to do more and more at home and at work. I even left out when I was talking about shadow work, it used to be that if you were a business executive, a professional person took care of your correspondence. Of course, now we all do our own correspondence and we answer our own phones. I'm not saying this is a bad thing. I'm just saying that these are all extra things we've been asked to do in addition to everything else. And so most of us cope with this by multitasking. And the fact is, multitasking doesn't really exist. I can say to you with the weight of neuroscientific evidence to support this, the brain just doesn't work that way. You feel as though you're juggling a lot of different things at once, but in fact, what's really going on is the brain is rapidly shifting from one thing to the next. You're not multitasking, you're sequential tasking, where each task gets maybe 5 seconds of your attention before you switch to the next. All of this seems like it can't be true. If you've been talking on the phone while reading an email and gesturing to somebody outside your office and maybe the radio's on and you're listening to something on the CBC, you feel like you're able to do it all at the same time. You really feel like you're a good multitasker. Why is it then that it feels that we can do it if we can't? Well, unfortunately, the one thing that the brain is really good at is self-delusion. So your own intuition is not a good guide here. And I can tell you that self-delusion operates in a number of mental theaters. For example, I tend to think that after 4 or 5 single malt scotches, I'm uproariously funny. But people tell me that that's not true. So I think that we can't rely on our own introspective intuitions about this. And the evidence is quite clear. What's happening during multitasking is you're shifting through all these different tasks and juggling them is you're not really giving your full attention to any one for very long. And I'm sure you've all had the experience that you've been talking to someone on the phone and you could tell they were doing their email. You just know. And then you say, are you doing your email? And they say no, but you know that they are. There's just not full engagement. All of this releases the stress hormone cortisol. Cortisol served an important evolutionary function when you were trying to run away from a lion that was chasing you or something like that. But in modern life, cortisol leads to foggy thinking It leads to a reduction in mental clarity, which ironically blocks you from being able to see that you've lost some mental focus. So you keep on multitasking, you keep getting more cortisol, and you get into this kind of a loop. You, in fact, are not saving time when you multitask, you're wasting time. And a number of in-the-workplace studies have now shown that workers who are forbidden to multitask, who are required to do one thing and sustain their attention at it, actually get more done by the end of the day than people who were multitasking. They don't think they got as much done, but they did actually get more done, and their work is rated as of higher quality and as having been more creative. So what all this suggests, what the research suggests, is that if we can put in dedicated blocks of time to each task, 40 or 50 minutes is a good rule of thumb before going on to the next one, we're better off. Now, I should say, because I'm in a law school, and I don't want what I say to be misinterpreted in any proceeding that may come, there are some jobs that really require something that looks like multitasking. There are some jobs where you have to be juggling a lot of things at once. The two that come to mind are air traffic controller and simultaneous translator at the UN. You can imagine in either case, if you get something wrong, the consequences could be disastrous. And it's no coincidence that for these two professions, it's mandated that the workers not work for more than an hour and a half without taking a 20 to 30 minute break. And this is a true break. It doesn't mean doing email or, in the case of a UN translator, listening into another conversation just for fun. I mean, they really have to get up and refresh themselves, which leads to the question, what do you do to refresh yourself either after a block of single tasking or a block of multitasking? What do you do to hit a kind of reset button in the brain? And there are two things you can do. One is you can take an actual break. A 15-minute break every 2 to 2.5 hours. You think, oh, I can't afford to take a 15-minute break. If you're like me, you feel as though if you stop work for even 5 minutes, you're going to fall 10 minutes behind. And we all end up at the end of the day feeling that we just can't stop for a minute. But these 15-minute breaks every couple of hours or so have now been shown in a number of studies to confer a real advantage on the people who take them. They end up having gotten more done, more than compensating for the extra time they took off. The quality of their work is better, and it's more creative because during their breaks, they often find solutions to problems that they weren't able to solve. And again, when I'm talking about a break, I mean a true break where you're not doing email, you're not surfing the web. The most mentally restorative breaks are those where you can let your mind wander. We've discovered in my laboratory a circuit in the brain modulated by a structure right here called the anterior cingulate, and it allows us to switch between the mind-wandering mode and the stay-on-task mode, two primary attentional states of the human brain. And when you're in the mind-wandering mode, you're familiar with this. It's when your thoughts are sort of loosely connected to one another. You're not really directing them. You're not controlling which thought goes into the next. It might be when you're just staring out the window and somebody comes by and they go like this. Well, this is a very natural brain state, and unfortunately, many of us in this over-caffeinated age try to avoid getting there because we think that it's unproductive. But that's quite opposite of what the truth is. Staring out the window for 15 minutes, looking at art, listening to music, immersing yourself in nature, exercising, any of these activities that can induce the mind-wandering mode allow you to start making connections between things that you hadn't connected before so that when you get back to your work, you can do so with greater problem-solving ability and greater creativity. I'm sure you've all had the experience that you're just walking down the street and suddenly the solution to some problem comes to you, and that's the mind-wandering mode sort of working on it in the background. On the topic of overwork and not taking breaks, I wrote a piece for the New York Times in August that talked about the importance of taking vacations, unwired, unwork vacations, where you really disengage for a week or two, for the same reason. And the importance of not working overtime unless it's absolutely necessary. Because there are diminishing returns, a number of different studies have now shown that if you work more than a 40-hour week, for every hour over that 40th hour you work, you only get 20 minutes worth of productivity. So people working a 60-hour week, they're not getting 20 extra hours of work done. They're getting 7 hours of extra work done. So you have to ask yourself whether it's worth it. If you're fighting Ebola in Africa, in Sierra Leone, if you're in an earthquake zone and you're trying to help victims, if you're a surgeon in a calamity zone, if you've got some short-term project where absolutely everything has to get done or there are going to be disastrous consequences, that's one thing. But if you're chronically working 60 hours a week, you're probably only getting 47 hours worth of work done. And you have to ask yourself whether that's efficient and how you want to spend your time. The second thing I wanted to talk about is decision making. And I wanted to talk about it in the context of medical decision making. I think because part of being organized in one's thinking is to think ahead to the kinds of things that can go wrong in your world. When I was writing The Organized Mind, I called up my colleague Danny Kahneman, in whose laboratory I used to work as a student. Kahneman is the Nobel Prize winner in economics who wrote a fantastic book a few years ago that you may have read called Thinking Fast and Slow. And I asked Danny, I said, is there anything that you wanted to put in your book about thinking that you didn't get in there? And he said, yes, there's one thing that occurred to him after the book was already published about organizing one's thinking. He said, and that's the value of conducting a pre-mortem. I said, a pre-mortem, what's that? He said, well, you know what a post-mortem is. When something goes wrong, you know, a team of specialists come in and they try to figure out what went wrong. He said, all of us should train ourselves to do a pre-mortem, figure out what little things could go wrong in your life and how to fix it so that the consequences of them going wrong are minimized. So anybody who's ever put a key under a flower pot or under the front doormat, that's doing a pre-mortem, because you know that if you ended up at home at 11 at night in the middle of a Montreal snowstorm and you can't get into your house, you're going to be very uncomfortable and it's going to be a major hassle, so you've hidden a key somewhere. That's a pre-mortem. Other things that you can do with the pre-mortem, other examples are, Kahneman mentioned, are if you're traveling, have you ever lost your credit card or it was stolen and you want to call the credit card company to report it so they don't charge you and then you realize the only place that their phone number was written was on the back of your card? Very poor planning on the part of the credit card company, but what Kahneman says you can do is make a photocopy of that back of the credit card or take a cell phone picture of it. And if you're lucky and your cell phone wasn't also stolen and you kept that copy in a different place than the credit card was, you still have the number. And there are hundreds of these kinds of things we can do in our lives. And among the most important is setting up your thinking about medical care ahead of time, ahead of the time when you're going to be in the doctor's office under a great deal of stress trying to deal with whatever it is that's going on. It's inevitable that at some point you are going to be put in a position where you'll have to make a life or death decision either about your own health care or the health care of someone that you love. And at that moment, rationality may go out the window. You're stressed, that stress hormone cortisol starts kicking in, clouding your thinking. You're dealing with a lot of new terms, and you don't know what questions to ask. The doctor's telling you we can do this or this, and it's at the same time you're imagining how your life is going to be different, who's going to take care of the dog while you're in the hospital. All these different thoughts start crowding your head. And so the idea of a premortem here is to organize your thinking about medical decision-making ahead of time. Talk to your loved ones. Think to yourself, what is it that I might need to know, or how am I going to deal with information when it comes time to make a decision? And increasingly, we're being asked to make more and more of the decisions ourselves, and medical professionals are less and less willing to say, this is what you should do. Instead, they tell you to do some internet research, they give you some information, and frankly, a lot of the information is baffling, and even more frankly, doctors throughout North America are not very well skilled in statistics and probability. It's not their fault, but medical school curricula don't typically have time to teach them the mathematical skills they need to be able to weigh the consequences of different courses of action. And I'd like to unpack that idea because I think there are simple things all of us can do that can greatly improve the chances of us making good medical decisions. Just as an example, suppose you go to the doctor and the doctor tells you, I've just read your blood report and your cholesterol is a little high. And you're thinking, oh, well, I've heard about cholesterol being high, and I know that it's associated with an increased risk of heart disease, stroke, cardiac difficulties. It seems like keeping an eye on the cholesterol is a good idea. And the doctor says, I'd like to start you on a statin. Now, you've probably heard of statins. You know that they're widely prescribed. Lots and lots of people take them. And so you're thinking, well, that sounds reasonable. Why wouldn't I want to lower my cholesterol? But there are a series of questions that you should ask. The first one you should ask the doctor is for a statistic that most doctors don't like to talk about and insurance companies like to talk about even less. That statistic is called the number needed to treat. Now, how many of you have heard of this before? Are you in the medical field? So out of a room this size, two people have heard of it. I think that is catastrophic. It's a terrible shame. Because doctors know this, pharmaceutical companies know it. The number needed to treat is how many people need to undergo a particular treatment, a surgery or taking a certain medication, before one person is helped. Now you're thinking, what kind of crazy statistic is that? The number should be one. The doctor's not going to give me a pill or recommend surgery or radiation or some procedure if it's not going to help me. But that's not the way medicine works. In fact, just last year, GlaxoSmithKline estimates that 90% of prescription drugs work on only 30 to 50% of the patients they're prescribed for. And for one particular statin, the most widely prescribed statin in the US and Canada, what do you suppose the number needed to treat is? How many people have to take the drug before one person is helped by it? The number is 300. 300 take the pill, 299 didn't need to take it. Now you're probably thinking, I've got good insurance, what do I care? The insurance will pay for it. But then you should ask the next question of the doctor beyond the number needed to treat, what are the side effects? How often do they occur? Well, for this particular statin, and I'm not just pulling this example out of the air for shock value, this is fairly typical of statins, and it's fairly typical of other drugs and procedures. For this particular statin, where the number needed to treat is 300, and under the advice of counsel, I'm not naming the manufacturer or the brand name, although this is publicly documented in their own website, if you look for it. The side effects that occur in 5% of the users of the drug include extreme gastrointestinal distress, debilitating muscle and joint pain, heart palpitations, nausea, and dizziness. Side effects sound awful. But you're thinking, oh, well, they only occur in 5% of the people. Not likely that they're going to occur in me. I'm willing to take a 1 in 20 chance, 5% chance, that the pill will lower my cholesterol. But what I'm advocating in the book, and I walk through a number of examples about this, and this is where the pre-mortem comes in. Think ahead to how you're going to process this kind of information, because on the spur of the moment, when you're in the doctor's office, sometimes your rational mind, unless it's been practiced, goes out the window. Let's see. We said there were 300 people needed to treat. 5% of them are going to have side effects. So 5% of 300 is 15 people. Remember, only one person's helped by the drug. So you're 15 times more likely to be harmed by this drug than to be helped by it. Now, I'm not saying whether you should take the drug or not. I'm just saying that the principle of informed consent in medicine is that you should know. You should be given this information, but the news that I have to share with you is you're not going to be given it. You're going to have to ask for it, and you're going to have to work through some calculations yourself. No more difficult than junior high school math, but you're going to have to work through it or find somebody who likes junior high school math, find some 12-year-old to help you work through it. And again, I'm not just taking this out of the air for shock value. there are a number of procedures where the number needed to treat is very high and the side effect rate is very high. One example, the most commonly performed surgery on men over 50 in this country is surgery for removal of the prostate for prostate cancer treatment. The number needed to treat in Canada is 49. Canadian surgeons conduct 49 surgeries for every one person who is helped. 48 people didn't need the surgery. And the side effect rate is around 50%. The side effects include urinary incontinence, fecal incontinence, which is a very polite word for something that I won't describe, and erectile dysfunction. Sometimes these side effects last for only a year or two or three. Sometimes they last for the patient's lifetime. But remember, you're now 25 times more likely to suffer the unwanted features of this operation than the benefit of it. 25 times more likely. Number needs to treat 49 and 50% side effects. You should be armed with this information so that you can make an appropriate decision. And you should take into account quality of life, of course. Nobody can tell you how to do that, but it's often helpful to think about ahead of time, what quality of life do I want to have? Would I rather live a long life, regardless of what it's like, or would I rather have a full, active life, even if it's cut a little short? The interesting calculation you can make about the prostate cancer surgery is that the average recovery time from surgery is 6 weeks for prostate cancer surgery before you're up and about again. It's not that long. But when you figure the statistics of the one surgery that can save a life versus the 48 that were unnecessary, on average, a prostate cancer surgery will only extend your life by 6 weeks. So the question is, when do you want those 6 weeks? Do you want them when you're young and active, or do you want them when you're old and drooling and in a hospital bed and about to die anyway? You can make that trade-off for yourself. Again, I'm not advocating one way of looking at it versus another. And there are a number of people who choose to have the operation quite rationally because they don't like the thought of having cancer in their body. They find it very stressful. They feel like it's a ticking time bomb. Completely valid decision. All I'm advocating is that you arm yourself with more information. The third thing I wanted to talk about is what we can teach our children in the information age. And, of course, I think we should be teaching them statistical skills and the ability to do these kinds of things I'm talking about in medical decision making. But more importantly, I think we should recognize that the world has changed fundamentally in the last 10 years in a very profound way that most educators and parent groups and well, frankly, most of us aren't really talking about. And the way in which the world has changed is obvious once we start talking about it. And that has to do with the way in which we get information and the speed with which we get information. And this has a lot of implications, I believe, in the courtroom, which I'll get to in a moment. The point is that Google has, of course, become the de facto information source. I mean, that's just based on the number of people who use it. I got nothing against Bing and Yahoo and Dogpile and all the rest. But, you know, the fact is Google is sort of a monopoly. And they've replaced long trips to the library, combing through irrelevant pages in a dusty book to find the one fact that you're looking for. As Christopher Chabri, a psychologist colleague of mine, says, we've outsourced to Google a massive volume of research chores that used to take anywhere from minutes to months of traveling through reference sources, making phone calls, and visiting far-flung archives. We can now get information almost instantaneously. Problem is that we don't know whether the information's true or not in the way that we used to know. It used to be if you went to a library and you took a book off the shelf, especially a university library, you knew that the content had in some sense been vetted. That somebody thought, I mean, yeah, there was stuff that wasn't true in there and there were different viewpoints and there were nuances, of course. That's the great thing about a library. But there wasn't stuff that was just out and out false, or it was less likely there than it is on the internet. The problem is that when we go out on the internet to look something up, it's so much easier now to find pseudo-facts, untruths, pseudoscience, than it was in the traditional world. Fringe views that would not really be very widely known are much easier to stumble upon. Now, this, you can look at this as a great democratizing force and a great feature of the democracy of the internet. Now, we really have free speech. Anybody can say anything. But the problem is, anybody can say anything. So it's particularly a problem with Wikipedia. As most of you, I assume, know, Wikipedia can be edited by anybody at any time. And it's very difficult to know when you land on a Wikipedia entry whether the most recent version of it was approved by an expert or whether somebody's gone in there and played around with it just for their own amusement or because they're just misinformed. In my own field in neuroscience, I had taken on the task of overseeing some Wikipedia encyclopedic entries on certain neuroanatomical structures that I've been studying for the last 15 years, or certain basic principles of psychology and neuroscience. And every once in a while, somebody would revert my edit, even though I had cited, you know, extensively peer-reviewed sources for how it is that we know this, and more than one source. Somebody would go in and they would change it and just put in their opinion. And in one particular case, I got into a battle with a 12-year-old who was who was saying that science should carry no more weight than his own personal views on the topic of how neurons fire, because he has strong intuitions, and why should some scientist carry more sway than he himself, the 12-year-old? And he cited no less an authority than one of the co-founders of Wikipedia, who said that Wikipedia was founded on the very principle that there should be no respect at all for expertise. Everybody should be able to contribute equally. So Lawrence Sanger is the one who said that, and he's reiterated it several times. Jimmy Wales feels the same way. The power of Wikipedia is that it's open to all, and experts carry no more weight than a 12-year-old. The problem with the 12-year-old is that the 12-year-old has substantially fewer obligations than a professor at McGill who's teaching classes and grading papers. And so the 12-year-old will usually win out in a battle of determination and tenacity, where at some point the expert just gives up and says, you know, the hell with it. I every time I put this back in and I get reverted and it goes back and forth, it's you don't want to spend the time. And it's not just in my corner of Wikipedia. This is a well-known problem. People in the legal profession have claimed concern about it. In scientific quarters, medical quarters. Suppose you go to look up that example I used of a statin on Wikipedia. Look up the entry there. How do you know whether the entry was written by somebody who works for the drug company themselves and maybe polished and maybe framed in such a way as to present a particularly biased view? So what I'm getting at with all of this is that I think one of the things we need to start teaching our children that we're not doing a very good job of is information literacy. I think every 10-year-old, starting at the age of 10, every 10-year-old needs to be taught that not all information is equal and that there might be biases in sources of information. If you look up a drug on the web and you get sent to a website, the very first question every 10-year-old should know to ask is, who operates this website? Is it the drug company? What biases might creep into the way they are reporting the information? Maybe it's an opposing, a competitor of the drug company offering an opposing view that set up this website. Is the website even current? Very difficult to tell with a website. They typically are not dated. Maybe the information on it is 10 years old and whoever was keeping it up stopped keeping it up. Maybe the information's been copied and pasted from another website. And without going to the source, you don't know if it's been altered in some way. These are all questions that every student needs to learn to ask. And there are hierarchies of sources of information. If you're trying to get information about drugs, which is going to be more reliable, a report from the drug company themselves or a report from a Canadian government, you know, Health Canada, who have compiled information from a variety of sources? The almond growers of North America have a website that promotes the value of almonds. It's not called almondgrowersofamerica.org. It's called almondsforhealth.org. So you might tell by the name that there's a hidden agenda, but you might not. There are a number of cases of political campaigns. I don't want to give you any ideas. But there are a number of examples of political campaigns where a candidate's competitor set up a website with a name that sounded like it was promoting this candidate, when in fact it was collecting money for this candidate. The courts have, in some jurisdictions, have refused to address this. So you've got candidate Baker, who's running, and candidate Candlestick Maker, who's running against Baker. Candlestick Maker sets up a website called imforbaker.com, but all the money goes to Candlestick Maker. So, and there are a number of websites in the healthcare space. You could imagine that a site like AmericansForBetterHealthcare.com or .org or .info is probably neutral. You'd hope so with a name like that, but they may have a very specific agenda. These are all things that we need to find out for ourselves. Lawyers are, of course, trained to do this. This is not a problem for anybody who's graduated from law school. But most of us are not trained to think this way, and it's getting increasingly critical that we become trained to think this way. Doctors aren't necessarily trained to think this way. Librarians are. As you may know, McGill has one of the premier library schools in the world. And librarians at a university hold a rank equivalent to that of a professor, and they're very good at helping to separate the digital wheat from the digital chaff, to get to the source of what's true and what's not. Starting in high school, certainly in college, we should be teaching students again that there are these hierarchies of sources of information. A .gov website is probably more neutral about some issues, though not all, than or more accurate about some issues than a .com website. And within the sciences, evidence from peer-reviewed journals is usually preferred to evidence in a tabloid. And you know, they're not all created equal, and Wikipedia, it's anybody's guess. I wanted to touch on some possible implications for the law, and I'm indebted to Max Bernard, a distinguished graduate of McGill Law School, who pointed me to a Supreme Court ruling that is timely and recent. And this is Supreme Court of Canada, R versus Farron, 2014. For those of you that want to look it up, it's SCC 77. And it had to do with whether the search of a cell phone incident to arrest was unreasonable and contrary to the accused's right to be secure against unreasonable search or seizure, and if so, whether the evidence discovered in search should be excluded. And so one of the issues here, and I'm quoting from the Supreme Court decision, like other searches incident to arrest, prompt cell phone searches incident to arrest may serve important law enforcement objectives. They can assist police to identify and mitigate risks to public safety, locate firearms or stolen goods, identify accomplices, locate and preserve evidence, prevent suspects from evading or resisting law enforcement, locate the other perpetrators, warn officers of possible impending danger, and follow leads promptly. Cell phone searches also have an element of urgency, which supports the extension of the power to search incident to arrest. The Supreme Court ruled in favor of the notion that the cell phone search conducted by police in this particular case of a burglary was reasonable under the circumstances. They mentioned that it came a little bit close to their line of comfort, but even so, it shouldn't be thrown out. What it revealed was the burglars, right after the burglary, had texted somebody saying, yeah, we pulled it off, yeah, we did it. You know, and then there were pictures of the weapon, which hadn't yet been recovered, but then seeing the picture on the cell phone, they were able to recover the weapon. And, you know, after being convicted, they challenged this. It went to the appeals court. The appeals court held, but eventually wound up the Supreme Court. The justices added that safeguards must be added to the law of search of cell phones incident to arrest in order to make that power compliant with Section 8 of the Charter. Now, it strikes me, and probably all of you, that this issue is complicated by the fact of how we use cell phones today. as opposed to 10 years ago or 20 years ago. And I have no training in the law, and I don't pretend to, and so I come to this as a naive outsider. But as a citizen, of course, I have an interest in the proceedings of the Supreme Court, and as a cell phone user, I have an interest in this outcome. I think some facts bear on the issue. The cell phone that you carry in your pocket, if it's any kind of a smartphone at all, and by statistics it most likely is, unless you have just some phone that all it does is make phone calls and, you know, has big buttons and you have to flip it open and the charge lasts for an hour and you have to pull up the antenna. If you don't have one of those, you probably have a smartphone. And even the oldest smartphone that will still work on the networks has more power. You carry more power in your pocket than Apollo Mission Control had. That whole big facility in Houston, you have more power in your pocket than they did. And you not only have that, but you have access to gobs of more power than they had access to. You have access to more information and computational power through the internet and through the stuff that's out on the web than mainframe computers had 30 years ago. And so it's worth asking, what are the emails on your phone? Are they serving the function that snail mail used to? Whatever protections a letter had once you brought it into your home, do those same protections hold for something that somebody sent you in an email? What if somebody sends you the same message in snail mail and an email? What status does that email hold? What about texts? Are texts considered private communications? Unlike email, which can usually be forwarded to or sent to a whole bunch of people at once, although there is the provision for that with texts, it's much less widely used. The standard, it's now become commonplace to send an email to a million people at once. That's what spam is. Not so commonplace to send a text to a million people at once. Is the fact that you send texts only to one person at a time imply a different standard of privacy? What about voicemails? What's the status of those? And what about the pictures on your cell phone? What protections might there be for photo albums in your home? And if you don't keep a photo album anymore, but you keep it on your phone, is that legally the same kind of a thing? The Supreme Court, if I've read it, the opinions correctly over the last few years, generally require a warrant if you want to search someone's computer, unless you have immediate probable cause, right? And unless you see the person working on the computer plotting to overthrow the government and you catch them in the act, unless you really have probable cause to search the computer, you need a warrant. But now that your cell phone can connect to your computer and synchronizes automatically emails and texts and files and data with the computer, is that really your computer anymore? Is it an extension of your computer because you carry it in a public place? What is its status? Indeed, in their dissenting opinion on this case that I've been discussing, Justices LaBelle, Abella, and I don't know how to pronounce his name, Karakatsanis? She. Karakatsanis. The dissenters wrote, a cell phone cannot be treated like any other piece of physical evidence that may be found on an arrestee and searched incident to arrest. This is a dissenting minority opinion. Individuals have a high expectation of privacy in their digital devices because they store immense amounts of information, they being the devices. The devices store immense amount of information, are fastidious record keepers, retain files and data even after users think they have been destroyed, make the temporal and territorial limitations on a search incident to arrest meaningless, and can continue to generate evidence even after they've been seized. Very interesting cases and thoughts. I'd like to end there, and I'm grateful to you for inviting me here, and I look forward to the conversation that follows. Thank you very much.
Thank you, Dan. I've been tasked with making a few comments and perhaps then inviting you to join us, and I think we can do that from the table here. First of all, thanks very much for your comments. Dan and I go back a bit to this music course that we've talked about, and This Is Your Brain on Music is a book that I cite often when I'm talking about copyright in music because of the role that music has and in our own personal development, as well as with legal implications. So this is fun. It's always great to listen to your stuff, and it's always challenging. I'm going to make sure that I go through the book with my wife, because we have children. So the chapter on children was particularly resonating. For now, I should say I'd better stop texting while I drive. Bad habit, especially if I can't multitask. And should I have should I see my doctor soon on anything, I will definitely begin asking the need to treat question as well as the side effects questions. I have a good GP, so hopefully he'll be game. But if not, I'll have to insist. On the last legal point, something interesting on the cell phone search. There's an argument for privacy as regards locus, so the phone itself as being a site in the way it's a room in your house or something like that. But there's also a question of the nature of the information too, and your work could have even more of an implication on that second point, because you're talking about how we organize information, and it may be that some of the categories that you go through in the book might have relevance to how a court ought to treat that aspect of the search. So that's something for people who are interested in perhaps writing about search and seizure. I haven't done search and seizure in a long time, but interesting stuff.
It doesn't get much more personal than search and seizure.
No, it doesn't. It doesn't, especially when we carry so much of our lives on these little devices. I'm not saying we need to worry, but maybe we need to worry. So, in any event, we're in the business here of legal education. I don't like to call it a business, but that's what we do. We teach. And one of the sort of cataclysmic events in my teaching career was when I came back from my first sabbatical in 2006. And what happened in that time? These rooms were wired, or wireless. And came into this room, teaching a big class, civil law property, and I noticed right away what had happened. Students were all multitasking. They were all surfing the net as I was lecturing. And it was striking. The difference in the quality and quantity of the conversations that we were having in class was immediately notable. And the social media came a bit later, so the really heavy use of Facebook and Twitter while I was teaching came a bit later. But maybe what you have said in terms of what we allow in the classroom, maybe what you've said about multitasking has an impact in the sense that maybe students aren't as capable of multitasking as they think they are. And maybe they're not quite getting the same kind of legal education that they might otherwise be getting if they weren't allowed to multitask. There's a movement amongst a number of law professors in the United States, and to some extent it's been attempted by some of my colleagues here, where they say, no laptops in the class. Now that would be tough, because there are a lot of students who I don't think can physically write anymore, particularly not for more than half an hour. But certainly, going back to a position where perhaps they couldn't access the internet during the course might actually bring some of them back into the conversation that's going on into the classroom.
If I could just add a point there, neuroscience rarely has something to say of use, but here's one case where it does. The act of writing something down causes you to process it more deeply. It engages deeper cognitive processing than typing it. Because writing is a very complex activity that uses a lot of different parts of the brain. And so just writing something down, the act of writing it down causes you to think about it more deeply and to retain it longer than typing it. So you might be onto something there.
Well, this is interesting. Certainly, I'm going to go back to those colleagues and my colleagues generally who are interested in this and maybe raise this from this perspective, because there's something there that I think we need to do. Question, is there any evidence that there's a shift in the way our brains work, particularly young kids? Because maybe it is the case that the students I taught in 2006, 7, 8, 9 weren't capable of multitasking, but the ones coming in now in 2015 are capable of multitasking. I wonder if there's a difference in cognitive function.
I think they're not capable of multitasking.
Okay.
I don't think the brains have changed in the last few years, even though, you know, now we've got the new students we see. You know, the funny thing about working at a university is every year you get a whole new crop of youngsters. And as you say, you go away for a year and you can really see the shift. We now are dealing with incoming U1 McGill students who are digital natives. The only world they've known is a world with iPads and laptops and smartphones, and a world with Wikipedia and Google.
Right.
I think that the only thing that's changed is their expectation about how often they're going to be stimulated.
Right.
And they are more distractible and less able to focus attention. And I don't think it's incurable, but I think that it's better if you start young children out understanding that there's value in sustaining attention. When I think about the problems that are facing the world, the big problems like poverty, the unequal distribution of wealth, terrible aggression across international boundaries, within national boundaries even, terrible aggression.
Right.
Racism that, in the United States, in Missouri, that would have been unthinkable 5 or 10 years ago. These are big, big societal problems, and I don't think they're going to be solved by somebody thinking about them for 5 seconds and then checking an email and then checking a Twitter post and then going back to thinking about them for 5 seconds. I think they're going to take some sustained attention, and I think sustained attention is what helped us to discover penicillin and put people on the moon and discover the structure of DNA and write a Bill of Rights and a charter. And all these great things that we do. And I think we need to start children out realizing that there are real benefits that come from focusing on one thing, even if it's just for 45 minutes, from reading a book, which is an entirely different set of brain regions and processes than passively taking in a video. There's nothing wrong with video and movies and television, but reading requires that you engage more actively because most literature doesn't spell it all out for you. It requires that you become a co-creator of the unfolding story and figure some things out.
Yeah. One of the other things that struck me, again, because we teach, and we teach in a faculty where one... It's fun to look out and see a number of students that I've taught, and particularly a number of students that I've taught in first year class. One of the exercises, as we all know, being lawyers, that you learn in first year of law school, something that's not directly on the curriculum, it's how to process information. Because you have to read a ton, right? A ton of cases, ton of information. And as you go through in the book, you need to learn to sort it, right? What is extremely useful, and particularly was extremely useful now for the purposes of my class tomorrow morning for which I'm preparing, what might be useful down the road, what's completely not useful, perhaps a part of a judgment that, you know, it's an obiter or doesn't have any bearing on the course, it's just there, maybe an evidentiary point or something like that if you're teaching a non-evidentiary course. And you learn to process it. And you learn to process also amongst the quantity, you learn to process what's important. So which cases are more important than others?
Prioritize.
Exactly.
Yeah.
And I wonder based on, I mean, it's one of the skills that you're trying to get through in the book, how we organize, and this is how we help organize our lives, right, generally, is if we can learn steps to take care of all this information. Is it something that we should help the students with directly, or is it something that they need to go through experientially? Just learn it on their own?
Well, that's an interesting question. I think that we should help them to understand the principle, but not tell them exactly how to do it. And the reason I say that is that the principle is that you need to prioritize. And students don't arrive here knowing that.
Right.
They sometimes just sort of work on what they feel like working on, or work on what occurs to them to work on, or work on the thing that has grabbed their attention.
Right.
They need to be taught, as many of us do, not just students. It's worth taking a bit of time out of your day to sort out all the things that you've got to do and put each one on a card, if that's the way you do it, or make a list, I mean, there's a certain advantage to cards, but I'm not attached to the idea. When I was doing research for the book, I talked to a number of Nobel Prize winners and CEOs and some Supreme Court justices about how they organize their time and their to-do lists. And I was struck by the number of people that use 3x5 cards. They fit in your pocket, one idea per card. You can easily change the order of them at any time during the day. You can lay them out. I mean, there are a number of features, but you know, it doesn't matter. The point is that whatever works for you is what works. But being aware that you need to prioritize, that's something that we don't all know and that students don't all know, mm-hmm. that you need to work out, well, okay, what are the things I have to do? And then how long are they going to take to get done? Which are the most important ones? Is there something that's going to, do I have to set some process in motion to be able to do this thing later? And if I start it now in a week, you know, I'll have the answer I need, that kind of stuff. Something as simple as reserving a book.
Right.
Right? You're not going to need the book for 2 weeks, but if you show up on the day you need it, somebody else may have taken it.
Right.
The pre-mortem.
Right. Again, interesting stuff. I see that Professor Fred Vachon has a microphone in his hand and looks like he wants to jump in.
If I may jump in. Just on this point, what David said resonated really with me because I'm... When I started seeing this change, the wired classrooms and students, the interaction in class changing a lot, my initial reaction was to say, bah, you know, we need to adapt, right? This is just a fact. Things are changing. Expectations are changing. The way they process information changing, and there's no point in us saying, you know, no internet, whatever. My intuition was that we need to adapt, and we need to think about how to adapt intelligently and effectively to that. And you know what? I'm not so sure anymore. And reading your book also sort of highlighted that point as well. And I'm often thinking about the point that David was thinking about. What's our role now? I think it's becoming quite clear that there needs to be a new kind of intellectual discipline to get through the noise and react effectively as human beings and professionals to information overload. I think that's clear. Otherwise, and then I'll ask you, where are we in 50 years? But that will be my second question.
And, well, interestingly, I think there is a profession. There are a couple of professions that know how to do that. One is the legal profession, and the other is the information science profession.
Why do you mention the legal profession? That's interesting.
Because my impression is that lawyers are very good at managing enormous amounts of information. You've got, you know, all these different cases that you need to know how they bear on a particular thing that's in front of you. You've got to be able to pull them out like magic, like a rabbit out of a hat, right when you need it. And you have to be able to anticipate, like a chess game, what the opposition might pull out. I mean, I think that's what the legal training tries to accomplish.
Absolutely. That's what we're aiming for, but that's what's threatened and jeopardized by information overload. It's one of the professions where you were mentioning, you know, we need people who are able to think about something deeply to work effectively.
It's interesting because I see a lot of parallel. When I teach research methods in the Faculty of Science, I talk about law a lot because a lot of what scientists do is pulling up cases, right? What did this other scientist find that bears on this study that we're doing here? And what other studies show evidence? We talk in science about evidence. What's the evidence that this particular scientific phenomenon might be true or that it might not be true? And what is the weight of the evidence? And how do you interpret studies that might go either way? And what might an opponent of mine in the scientific community bring in? The difference is that we're able to do, as scientists, we're able to do all of this information management offline over a period of months or years. Lawyers have to do it in real time in the courtroom.
Does neuroscience have anything specific to offer in terms of when's the best time to train and to sort of instill these intellectual skills and that intellectual rigor that is required? Because should it be done early on? Do we, professional schools, they come to us, they're anywhere from 20 to 24, should we need to rethink the balance that we have traditionally had between contents and the sort of foundational skills of our discipline and emphasize those more than we have up to now?
Well, as you may have read, neuroscientists believe that the part of the brain that controls impulses, impulse control, and planning and understanding the consequences of one's actions doesn't fully mature until about the age of 20. So college age is about the right age to be instantiating some of these ideas. It's no accident we send kids to college, graduate school, or law school around 20. And then certainly I think around the age of 10, children can be taught some of the basic ideas of consequences, of prioritizing, of information use and gathering, but of, you know, certainly at a lower level.
There, Francie?
I was a student here from 2004 to 2008.
During the dreaded transition period.
Exactly, and I was your student from 2006 to 2008.
That's right.
And when I came in, I was handwriting all my notes in first year, and by fourth year, I was typing them all on the laptop, so I did that whole transition, and it was a bit traumatic from my point of view as well. Now, I keep a handwritten journal even now, and I very much appreciate the impact of the difference between writing by hand and typing, and I recognize the value. I also recognize that if I was online during a course, then I would miss a lot. So I tried very hard not to do that. But right in between those two things, what I noticed when I was on my laptop, I learned over the 4 years to take time at the beginning of every semester to copy in whatever way I had to the syllabus onto a blank Word document and with all the headings properly documented, and it was worth whatever amount of time it took in the first week to do that, because then when I'm sitting in the course and I'm listening, I can very quickly take the professor's subtle cues as to where we are in the syllabus and make sure I'm in there and take all my notes in between those headings without then getting lost, because you don't memorize the syllabus at the beginning because you're there to learn what's in it. You don't appreciate the contours of the course until you've finished it and you've been exposed to everything. And so you miss those subtle cues as you go through. And when you're handwriting, you can't adapt the length of your note paper because you don't know how much information is going to be in there. You don't know how short or how long it needs to be. But in the word processor, it does that all by itself. So I just keep typing and typing my notes until, oh, I hear that quick little cue. Oh, we're in the next section now. And that made all the difference to my ability to retain the information later, organize it for the exams, and engage in the conversation during the class. So that was infinitely easier for me than when I was handwriting my notes. But as soon as you add the internet access, then again, you're not multitasking, you're sequentially tasking, and you're missing the subtle cues, and you lose all that benefit. So anyway, I found my sweet spot right in the middle.
Okay.
I was a student here from 1958 to 1961, so, and that may become very evident in the next few seconds. I have two questions. When I was an undergraduate, we talked a lot about C.P. Snow's Two Cultures. And my question, my first question is, are there any studies or any analyses from neuroscience or anywhere else as to how all this information that we are overloaded with has or has not contributed to the quality of decisions that policy makers make in government around the world? Because I'm under the impression, we in law we often talk about evidence-based decisions. And I'm under the impression that we in Canada have a government, but it's not unique to us, that makes many of its very, very important decisions not based on information at all. So that a lot of this information that we're overloaded with seems to be wasted. And my second question is, why is it, or maybe I'm under the wrong impression, that in the culture of technology and science, mankind or people seem to advance a lot more quickly and a lot more than they do in decision-making that has to do with social values and politics and whether this world is going down the drain or not. Do you have anything to say? Does neuroscience have anything to say about this gap that seems to exist between people's ability to advance with technology and science and physical science as opposed to with decisions, political and social decisions, that have to do with our quality of life and our planet? So that's all I have to say. Those are my questions.
Thank you. Fortunately, neuroscience does have some things to say about this. First, on the first point about bad decision-making, why is it seen that so many people in positions of power and authority make so many bad decisions? You don't have to look farther than Enron to see that, and a host of other problems in the financial industry. People have always made bad decisions, and that gets to your second question, which I'll answer in its turn. But what's made matters worse, or what's complicated matters in the last, say, 20 years with the information age and the information explosion, is something neuroscientists have identified that we call decision fatigue. It turns out that your brain can make a certain number of decisions before the neural circuits get depleted. Neurons are living cells with a metabolism, and they need nutrients in order to function. Those nutrients are largely glucose that is brought to them by the blood. And although your brain certainly knows the difference between an important decision and an unimportant one, the neural cost of making a decision is about the same, the metabolic cost, that is. So if you make a bunch of little trivial decisions, you'll deplete those neural resources just as rapidly as if you're making really important decisions. So to give you an example, a study was done where people were asked things like, we're going to give you a questionnaire, do you want to use a green pen or a purple pen? And oh, by the way, you can have some gum. Do you want spearmint or peppermint? And I mean, just a bunch of stuff that really was not momentous. And after a series of these inconsequential, trivial decisions, their task was to make really important decisions, like you've just been diagnosed with cancer, and these are the outcomes if you get surgery versus radiation. Which would you choose? And you'd have to work through the different details. Or you've just been given some money, and you want to avoid paying taxes on it, and you can invest it this way. There's this tax-free instrument. There's this taxable instrument. This is the rate of return on each. Important things, not as important as you know, government operations, but important. For the individual, people's decision-making ability was dramatically reduced if they were given these trivial decisions to make. They literally depleted the neural resources. So we need to be aware that decision fatigue exists. And getting back to what Professor Lametti was talking about, prioritizing, it's very important to prioritize your important decisions early in the day. Or after a nap in the afternoon, if you take naps. But make these decisions when your neural resources are not yet used up. And put off the trivial decisions till later. Now, one of the scourges of modern life is email. And email is particularly diabolical because of this. If your email program is on and you're working on something, and an email comes in and you hear that ping, you have to decide, am I going to look at it now or not? It might be something important. It might not be. And then once you look at it, you have to decide, am I going to deal with it now or deal with it later? If I deal with it now, do I file it? Do I forward it? Do I reply to it? If I reply, am I going to give an exhaustive answer now or just a cursory answer and tell my correspondent there'll be more forthcoming? Do I mark it as spam? That was seven decisions right there for one email. And remember, your neurons are keeping track. You make a few email decisions like that in the morning, and your morning can be shot. So what productive people are increasingly doing is setting aside a dedicated time to deal with email, and they tell people if it's urgent, don't use email to tell me about it. You know, call me or text me or something else. but not email, because email has become too unwieldy to deal with. Now, as to your second point about why are we making bad decisions, or why are governments making bad decisions, one reason is decision fatigue. But the other reason is that, as Danny Kahneman and his colleague Amos Tversky, again, they were my mentors when I was a student, as they've shown over decades, the brain just wasn't wired or didn't evolve to be able to deal with probabilities and statistics and to make rational decisions. It's very, very difficult to learn how to make good decisions. We can teach it, but you have to practice it a lot, and you have to recognize that there are a number of biases that creep in to decision making. Just as one example, and there are hundreds of these, in fact, that's what Kahneman's book is about. It's about all the biases that creep into decision making and interfere with proper, sensible decision making. Things that are out of our control, because the brain didn't evolve to deal with the world in all of its complexity. So just one fun example. If you ask the average person to rate how likely various causes of death are, they tend to overrate things like drowning or getting hit by lightning as far more common than they are, and they underestimate things like dying from stomach cancer. It turns out you're about 100,000 times more likely to die of stomach cancer than getting hit by lightning or drowning. But if somebody drowns or gets hit by lightning, it's often front page news. Somebody dies of stomach cancer, you don't hear about it. So what Kahneman and Tversky call this is the availability bias. When you can call up a fact or a news report or something, when it's available to your memory, you overweight it. And this can interfere with decision making. And certainly it can interfere with public policy. If you're going to put money into curing stomach cancer or putting higher fences around public pools, it can influence the decision.
I was here a number of years ago, and I'm not going to tell you how long. It's not as long as Harvey Yurovsky over there. He's a more eminent lawyer than anybody in this room, I think. My apologies to all the other eminent lawyers. But I can tell you that one of the two things that I learned here that got me through it, because it was a slog, was A, to be organized. You had to organize your resources. You had to organize your time. You had to organize the material and prioritize it and so forth. But you also had to be able to organize how you were going to intellectualize it, how you were going to absorb it, and how you were going to give it back when called upon. And that was absolutely the best lesson, I think, that I learned. The second lesson I learned was how to be engaged with the subject matter. And that I give huge credit to the professors. The professor who succeeded in engaging me was the professor, I think, whose course I appreciated the most. And there were different ways of engaging. I mean, I had magnificent professors, you know, a couple just come to mind, like Brierley, who was phenomenal at being able to sort through complex intellectual issues and engage you in the process of analyzing complex intellectual issues. Having gone through Daniel's book, which was a slog, but fascinating and absolutely rewarding, hugely rewarding, that was a prefrontal cortex activity. That was just pure intellectual exercise. But I also had Frank Scott, who engaged us by challenging us in flights of fancy, you know, with his poetry. And his poetry is what would lead us into learning some law. So we were, you know, doing the daydreaming kind of stuff that Daniel talks about. Two very, very different modes of engaging us. And I can tell you that sitting there on a computer, if you're looking at other stuff, you're daydreaming, which is fine. That's okay. But the professor has got to be able to use that to his advantage or her advantage in order to get you to learn the material and engage in the course that they're teaching. Or intellectualizing and have the professor engage you in that fashion. I think that's the challenge for modern teaching today, when all messages are in sound bites. You know, all these text messages are in, 100 characters or whatever it is. I mean, that's the way instantaneous communications are all about right now. They're all in sound bites. So I think that's your big challenge in the law school, is to be able to do that. I can tell you, you know, having done a trial with a friend over there on the other side, we had a judge who was brilliant, but the judge spent all her time recording everything on the computer, everything that was being said by every witness, almost every word. That was the failure of the system that she was later supposed to rely on, which was recording
the testimony. She said, no, that's not good enough for me. So she was recording everything on her computer. The problem was she wasn't hearing anything. So if anybody made an objection, she was one question behind. Because she had recorded it all, hadn't heard a thing. So she would have to review it later. So I think your task in the classroom is really to engage the students the best way you can.
That's interesting what you said about the note-taking. My first neuroscience professor, when I was a freshman, said that the easiest way to get information from the professor to the student without having it go through the minds of either is to have the student take notes.
Certainly, from our perspective, you do try to engage. You use techniques, use video, use the, you know, the internet, all sorts of things to get to get that level of engagement. The end of the day, though, you still hope that students will be able to focus on what you're trying to engage them with, and sometimes that's still tough too, even with the sort of bells and whistles of modern technology. Well, it's a tough. But you're right, it is a challenge that we need to face.
I sort of feel like I'm back in high school with my hair past my shoulders. And I played guitar, drums, and all kinds of stuff, and I was into different things, and today I'm an attorney with two law degrees and an MBA and a Bachelor of Commerce, and I run a bunch of businesses in Canada, U.S., so I've made my transition. But I feel like I'm back in high school listening to people telling me that what I was doing is wrong. I have an 18-year-old and a 13-year-old at my ripe age, and they're incredible, and we can't keep up with them. And they're doing phenomenal things, and I just feel like sort of listening to this stuff, and you know, they'll know the difference that getting hit by lightning versus cancer and stuff like that. They can understand it. And I just sort of feel we're losing it. That's my opinion.
The new generation can do all kinds of things that we can't do. And that's the way it's supposed to be. And they're going to be running things shortly, and they're going to be taking care of us when we're in our retirement. And so I want to be sure that they're armed with the very best that we can give them. And I think they're going to discover the technologies on their own, and I think that there's some wisdom that some of us can impart as our elders imparted to us, and that wisdom might be to take some time for poetry, as Mr. Bernard suggests, to take some time for music, to slow down every once in a while at least, and actually think about something for a little while.
That's certainly our experience at home. We've got three kids, 18, 16, and 13. Even between the 18-year-old and 13-year-old, I think the 18-year-old has a better capacity. Master of the technology, does all kinds of multitasking, but is more capable of sitting down and concentrating on something for a sustained period than the 13-year-old, 16-year-old, somewhere in between. And that's just having come 5 years later in this massive technological revolution that they're growing up in. So it's our task to still try and slow the 13-year-old down once in a while, take her off the computer and say, here, let's read a book, or let's do something else. And that, or do your piano. So that helps, I think. We see positive benefits immediately afterwards, but then again it's that constant struggle to, you know, unplug her for at least a period of time.
Notwithstanding the technology, they're involved. My 18-year-old, I mean, he's studying, he's doing, like, the technology is beyond description. When I watch him sitting and using whatever he uses, whether it's his iPhone, which I try to keep up all the time and watch them, he uses that at a level which I can't even understand. And then he's into his music, and he's into his guitars and stuff. I think they balance themselves. I think they're just, I think us older people have difficulty watching them progressing at a rate where we can't even imagine. And, you know, I'm listening to it and I'm agreeing in certain stuff, but I have to tell you, I think they're phenomenal. And I don't believe, you know, they look at it, if my son sat in here and listened to this, he would say, "Pooh," you know, they just don't get us. And that's what I try to do. I really try to get them, because when I was in my youth, I was a kid with hair down to my rear end and into my guitars and into my stuff, but I kept my academics and I did my work and I did my, and that's where they're at. They're not with their hair down to their rear end, but they're into their technology. They're into stuff that we just can't comprehend at 11 at a level. So I'm sort of listening to it, but I'm trying to feed off of what they do.
I agree that they are overtaking us in many domains and that they are phenomenal. I totally agree with that. And I consider it a great privilege every year to get a new crop of them here. Right. And it's no secret among the faculty anyway that the wonderful thing about teaching at McGill, at least my experience has been that my students are always smarter than I am. And each year they're smarter than last year's.
Right.
Now, they're not necessarily smart in the same way that the previous year students were smart, and they have different skills, and they also have different things they can't do. But as a group, the great irony, of course, is that the professor is not as smart as the student body at Canada's number one university.
I'd agree with that.
Thank you.
I'm speaking only for myself.
No, I agree with you. I agree. It's a privilege to teach you. It's fantastic.
I'm going to use the privilege of the convener to ask a question before we go to the break. I'm curious about some of the things you discussed earlier about how the brain processes information, and you were giving the example of the drowning that makes a better mark. And I heard recently a presentation on positive psychology and how our brain deals with happy or makes happiness or makes us happy. And one of the things they were saying, and I'd like curious to know what you think about, is that through evolution, the humans that survived were the humans that actually were the pessimists, that were more interested in or remembered better the negative elements. They would remember where the lion was, and so the next time that they went around, they made sure they avoided the lion, whereas the happy-go-lucky chap would get eaten by the lion. And so and I'm curious to know if it even makes sense, but that we're hardwired to remember danger, to remember risk, to remember negative emotions, fear, better, or to put more importance on them as opposed to positive emotions. And if that's the case, can we reprogram ourselves? Eventually we might evolve out of it and hundreds of years or hundreds of thousands of years. I'm curious just to know what your thoughts are.
Thank you for that. Of the thousands of ways that human beings differ from one another, one of the ways is in which we process negative experiences. And I'm sure you all know people like this. When something bad happens to them, it really takes them a long time to recover. And they stew and they ruminate and they stay in bed and the world is ending, and then they pick themselves up. At other people, it just, you know, right off their back, like water off a duck's back. Mm-hmm. And so I don't think that we're at a point in neuroscience where we can say all humans are wired this way. But certainly some humans are wired that negative events loom large in memory. And for other humans, that's less so. I'm fascinated myself by the evolutionary question that you raised. And I'm inspired by being in this room about trying to think of opposing counsel's argument to the idea that, what might somebody say to counter the notion that it was the pessimist who lived longer because he avoided the lion? Is it possible that the lion was a one-time occurrence and the lion happened to be encountered near where the food supply and the well were, and so the pessimist, wanting to avoid the lion at all costs, starves to death, while the happy-go-lucky optimist figures, one-time thing, the lion's probably gone now and is able to feed his family and reproduce. So I don't know. Until we get our time machine, I think these evolutionary questions are difficult. And if there are any biologists here, I'll defer to your expertise on this.
Can I just say one thing before we go about Professor Levitin? Lest you think that he doesn't have a lighter side. Prior to his university career, he used to produce music for bands in the San Francisco area, some of which you may have heard of, like Romeo Void. I used to love them. But also did a lot of work on recommendation engines, which you now know when you go to iTunes and you have Genius. It's a kind of recommendation engine to try to tell you what to listen to. So Professor Levitin was one of the first people working in that kind of area in the music industry. So he's good with the new technology. He's just, I think, trying to give us a message that there has to be a little bit of a skepticism there when we think about how our brains work. Right. Thank you.
So we'll go for a break now and come back in 15 minutes. Thank you.
How many neurons do I get a day? Thank you.
Thank you. moins 5, moins 20, il n'y a pas de problème. À moins 20, je vais te citer aussi.
Alana m'appelle tout le temps.
Thank you.
Je vous invite à reprendre vos sièges, s'il vous plaît. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à vous reprendre vos sièges. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter maintenant la deuxième conférencière de la soirée, la professeure Lara Khoury. Madame Khoury est professeure agrégée à la Faculté de droit, membre associé de l'Académie internationale de droit comparé et membre à McGill de l'Institut de droit comparé et chercheure au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec. Elle préside également avec la professeure Alana Klein le groupe de recherche en santé et droit de McGill. Les recherches et l'enseignement de la professeure Khoury portent principalement sur la responsabilité médicale et environnementale et sur le droit de la santé. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université Oxford. Elle est également l'auteur de la monographie Uncertain Causation in Medical Liability, qui s'est mérité le prix Minerve ainsi que le prix de la Fondation du Barreau. Comme indiqué précédemment, Madame Khoury parlera ce soir du traitement judiciaire de la preuve scientifique dans les tribunaux français et québécois. Alors, la présentation de Madame Khoury sera suivie d'un commentaire par le professeur Bachand, que vous connaissez bien. Professeur Bachand est professeur agrégé à la Faculté de droit, où il enseigne dans les domaines des modes extrajudiciaires de résolution des différends, du droit judiciaire privé et de la preuve civile. Il détient les doctorats à l'Université Panthéon-Assas et l'Université de Montréal. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir notre deuxième conférencière, Mme Khoury.
Merci beaucoup, Véronique. Merci, Frédéric. Merci à vous d'être ici. J'ai essayé aujourd'hui de vous présenter les résultats préliminaires d'une collaboration que j'ai entreprise en 2013 avec un collègue de l'Université de Grenoble 2, Pierre Mendès France, qui est Étienne Vergès, qui est un spécialiste du droit de la preuve. Et qui porte, en fait, comme le titre le dit bien, sur le traitement judiciaire de la preuve scientifique à la fois devant les tribunaux français et devant les tribunaux québécois. Oups. Voilà. Alors, à l'origine, Étienne et moi, on a décidé de faire une recherche semi-empirique sur le traitement de la preuve scientifique en droit de la responsabilité civile dans les affaires où il y avait soit une incertitude scientifique présentée au juge ou un débat, ce qui est d'ailleurs un peu plus fréquent en droit québécois. Donc, ce projet-là vraiment se focalise sur le rapport des juges à la connaissance scientifique. Monsieur Levitin, dans son livre « The Organized Mind » à la page 219, nous dit la chose suivante. « Most of the decisions that a president of the United States has to make have serious implications. Potential loss of life, escalation of tensions between countries, changes in the economy that could lead to loss of jobs, and they typically arrive with impoverished or imperfect information. » Maintenant, je ne sais pas si c'est risqué de comparer nos juges au président des États-Unis, mais le fait est que nos juges prennent également des décisions qui ont des implications très importantes, à tout le moins pour les parties au litige, et habituellement vont le faire à tout le moins lorsqu'il y a des données scientifiques ou technologiques qui sont impliquées, avec l'information qui est souvent imparfaite. Et donc, on a décidé de s'intéresser à ce phénomène-là. On s'est inspiré, en fait, au niveau théorique, d'une littérature très, très prolifique, surtout américaine, qui étudie les rapports entre le juge et la science et qui a étudié de façon assez extensive le rôle de la science dans la prise de décision. Vous avez quelques ouvrages ici, mais il y en a plusieurs autres. Dans cette littérature, les relations entre le juge et la science, bon, font l'objet de critiques. Et il y a une thèse particulière qui est présentée par plusieurs auteurs à l'effet que la justice et la science appartiennent à deux mondes qui sont hermétiques. Et on oppose dans cette littérature-là la vérité scientifique à la vérité judiciaire et on reconnaît qu'il n'y aurait pas d'adéquation entre les deux. En fait, dans cette littérature, de façon plus précise, on va opposer la vérité scientifique qui est relative, qui est réfutable, qui se situe dans un continuum à la vérité judiciaire qui est absolue et qui, bon, une fois qu'un litige est décidé, l'autorité de la chose fait en sorte qu'on ne peut revenir en arrière pour réparer ses erreurs. Un exemple que j'aime bien donner de ce phénomène-là, c'est l'affaire que vous connaissez sans doute, Montreal Tramways contre l'Éveillé, qui est une vieille affaire de la Cour suprême du Canada, je crois, des années 30, où on a décidé que le pied-bot dont souffrait un bébé à la naissance avait été causé par la chute de la mère d'un train alors qu'elle était enceinte. Donc, on avait pris ça pour acquis. Des années plus tard, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun lien entre les deux. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, chose jugée. La vérité scientifique, elle est collective, elle est probabiliste. Je vous encourage d'ailleurs à lire le chapitre sur l'information médicale dans le livre de M. Levitin. La vérité judiciaire, vous savez, elle est individuelle, elle se situe dans le cadre d'un litige circonscrit qui concerne des parties individuelles et elle est binaire. Alors, en responsabilité civile, on est responsable ou on n'est pas responsable, il n'y a pas de milieu, c'est blanc, c'est noir, c'est pas gris. La vérité scientifique, elle est validée par les pairs. La vérité judiciaire, elle est prononcée par un tiers qui tient son autorité de l'État. Ici, on parle du juge, mais évidemment, bon, ça pourrait être un jury dans certaines provinces canadiennes aux États-Unis. La vérité scientifique est basée sur l'observation du réel, alors que la vérité judiciaire, et ça a été écrit par mon collègue français, je pense que c'est un peu plus vrai en France, peut être vraiment déconnectée de la réalité par l'utilisation, par exemple, des présomptions ou des fictions juridiques. Et on a certains exemples en matière de responsabilité, mais dans d'autres domaines, comme le droit de la famille, par exemple. Donc, notre objectif, à mon collègue et moi, c'était de vérifier si cette opposition entre la science et le droit, cette opposition théorique qu'on retrouve dans la littérature, correspond à la pratique. Bon, avant que j'aborde les résultats ou les constatations qu'on a fait par l'étude de la jurisprudence dans les deux ressorts, je dois noter certaines différences procédurales entre le droit québécois et le droit français qui, à notre avis, expliquent peut-être certaines différences qu'on a notées quant au traitement de la preuve scientifique par le juge français et par le juge québécois. Alors, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec la procédure française, c'est quand même une mise au point qui est importante pour un petit peu mieux comprendre les résultats. La France repose sur un modèle procédural qui est civiliste, alors que vous le savez très bien, au Québec, on a un modèle procédural qui est mixte, donc qui est inspiré à la fois par le droit civil et la common law. Et ça fait en sorte qu'il y a des différences quand même assez majeures entre la France et le Québec quant à l'introduction de la preuve scientifique et au traitement de la preuve scientifique dans les deux ressorts. En France, on considère qu'il existe une vérité juridique, factuelle, que le juge doit découvrir, alors qu'au Québec, dès qu'on parle de preuves d'experts ou de preuves scientifiques, plusieurs vérités vont s'affronter devant le tribunal et l'autonomie du juge face à cet affrontement, elle va varier selon la question qui est posée et l'angle d'analyse. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. En France, on considère que l'expert, sa mission, c'est de dévoiler cette vérité au juge, alors qu'au Québec, l'expert n'émet qu'une opinion. En France, l'expert est un expert judiciaire qui est désigné par le juge. Il est impartial, c'est un adjoint de justice, il fait partie véritablement du processus judiciaire alors que les experts sont choisis par les parties au Québec. On sait qu'on a la possibilité, le juge a la possibilité de s'adjoindre à un expert judiciaire. C'est une possibilité dont il se prévaut assez rarement. Alors, les experts sont choisis par les partis parce qu'on l'imagine, leur position, leur opinion, défendent la thèse de la partie. L'expert en France rédige un rapport, comme au Québec, il est interrogé par le juge. L'expert québécois est soumis à un interrogatoire et un contre-interrogatoire par les partis. La force probante de son opinion est débattue par les partis et elle est évaluée par le juge. On n'a pas ce phénomène-là tout à fait en France. Et enfin, le juge, en matière de responsabilité civile en France, doit parvenir à une certitude. Le standard de preuve, c'est l'intime conviction du juge. On parle d'une probabilité autour de 95%, alors qu'au Québec, on se contente de la prépondérance de preuve. Et donc, la valeur probante d'une opinion scientifique, d'une opinion d'expert, elle est évaluée selon ce standard de preuve qui est beaucoup plus flexible. Alors, un petit mot sur la méthodologie, je vais passer très vite. On a sélectionné un échantillon de décisions judiciaires de la façon suivante. En France comme au Québec, on s'est intéressé au contentieux de la responsabilité dans le domaine de la santé. Il fallait qu'on restreigne ça un petit peu, incluant la responsabilité environnementale. Mon collègue en France a sélectionné surtout des arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel. Les cours d'appel en France sont des cours de fait et de droit, donc c'était logique de le faire. Il exclut la première instance parce que le volume de décisions est ingérable en France. Donc, on a décidé de faire ça comme ça. On a couvert, à l'époque, en 2013, une période de 5 ans. Et pour sa part, ça lui a donné une cinquantaine d'arrêts à étudier. De mon côté, j'ai regardé tous les niveaux, avec une emphase particulière sur la première instance, évidemment, pour des raisons assez évidentes. J'ai évidemment couvert cette même période de 5 ans, mais pour votre bénéfice, j'ai mis à jour cette recherche, ce qui m'a donné 43 décisions à l'origine, plus 3 nouvelles décisions pour la période 2013-2015. Et je dois vous dire que l'étude est en cours, donc c'est vraiment des résultats préliminaires. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il faudra suivre ça. D'ici quelques mois, on aura notre étude complète. Malgré des mots-clés assez généraux, on s'est retrouvé avec un contentieux surtout médical, un petit peu environnemental, et on s'est rendu compte que la preuve scientifique, évidemment, elle est débattue, soit au niveau du fait générateur de responsabilité, habituellement la faute médicale, ou au niveau du lien de causalité. Jusqu'à maintenant, ce qu'on observe, c'est que les juges vont adopter des attitudes assez diverses face aux connaissances scientifiques. Et on a tenté d'illustrer cette diversité-là par une échelle à 5 niveaux. C'est pas parfait, mais bon, c'est une manière de classifier un petit peu ces attitudes judiciaires-là, les rendre un petit peu plus compréhensibles. Alors, je vais vous décrire ces niveaux et ensuite, on les étudiera un par un. Niveau 1, en bas du tableau, le juge refuse de s'immiscer dans un débat scientifique. Il reste à l'extérieur, il décide de ne pas le trancher. Niveau 2, le juge prend pour acquise une vérité scientifique incontestable. Ce genre de connaissances d'office pour des faits scientifiques qui sont prouvés de façon irréfutable. Pour ce qui est du niveau 3, on a dû en fait le définir de façon différente selon qu'on étudiait la jurisprudence française ou la jurisprudence québécoise, simplement en raison du fait qu'en France, l'expertise scientifique est produite habituellement par un expert judiciaire, un seul par matière, tandis qu'au Québec, souvent dans les affaires médicales environnementales, on a des panels d'experts, plusieurs experts même au sein de la même discipline, de part et d'autre de la table devant le juge. Alors, pour le niveau 3 en France, on a réuni sous ce niveau les décisions dans lesquelles le juge adopte les conclusions de l'expert, tandis qu'au Québec, on a dû en fait définir ça autrement. On a inclus ici les décisions dans lesquelles le juge va faire un choix en faveur de la thèse d'un ou de plusieurs experts. Et vous verrez tout à l'heure que ce choix-là peut se faire sur des fondements divers. Niveau 4, le juge prend les données scientifiques comme des faits bruts. Il se détache de l'opinion d'experts. Donc, il va aller chercher les faits scientifiques directement, sans passer par l'expert. Et le niveau 5 va comprendre les décisions dans lesquelles le juge adopte un raisonnement scientifique, il entre dans une controverse comme un scientifique. Il va même essayer de trancher le débat scientifique. Vous le devinez peut-être pour ceux qui font de la responsabilité, Au Québec, on retrouve surtout des décisions qui s'insèrent dans le niveau 1 et dans le niveau 3, mais jusqu'à maintenant, j'ai repéré certaines décisions de niveau 5 qui sont particulièrement intéressantes. Je vais m'en tenir, pour que vous puissiez partir à la maison à 9 heures comme prévu, à la jurisprudence québécoise, mais je vais quand même vous donner les conclusions générales de mon collègue quant à la jurisprudence française pour ceux que le droit comparé intéresse. Donc, je prends les niveaux un par un avec des exemples. On va commencer par le niveau 1, le refus d'immixtion. C'est une situation, en fait, qu'on a surtout trouvée en jurisprudence québécoise. En fait, les tribunaux québécois refusent de s'immiscer dans les débats scientifiques qui concernent les standards de pratique, donc la faute, mais pas dans le domaine de la causalité. On reviendra à la causalité tout à l'heure. Les raisons qui sont typiquement évoquées, le manque d'expertise du juge quant aux standards de pratique en matière médicale, par exemple, le respect judiciaire pour l'expérience accumulée des spécialistes, le refus de choisir entre différentes écoles de pensée. On a beaucoup moins vu ça en France. Le juge, mon collègue, constate qu'il refuse de laisser l'expert trancher une question qui relève de son pouvoir. Ça inclut la faute, ça inclut la causalité. Il considère que l'appréciation des faits, la qualification juridique, elle relève des pouvoirs du juge. Et donc, ce refus d'immixtion, on l'a vu rarement en France. Donc, c'est une très grande distinction entre les deux ressorts. Quelques énoncés de principe sur ce point ou sur cette question de refus d'immixtion. Décision majeure sur ce point, la pointe contre le gardeur, une décision de la Cour suprême du Canada de 1992, où la Cour suprême nous dit, c'est une affaire de responsabilité médicale, un médecin ne sera pas tenu responsable si le diagnostic et le traitement du malade correspondent à ceux reconnus par la science médicale à cette époque, même en présence de théories opposées. Et la Cour cite André Nadeau, qui nous dit dans un texte assez fameux, « Les tribunaux n'ont pas compétence pour trancher les différents scientifiques et partager les opinions divergentes des médecins sur certains sujets. » L'idée a été reprise très clairement plus récemment par la Cour d'appel du Québec dans le Duc contre Socchio en 2007. La Cour nous dit dans cette affaire, en matière de traitement médical, pour décider s'il y a eu faute, un juge ne saurait se fonder sur son opinion personnelle à l'encontre de celle des experts. Il doit plutôt se demander si l'acte est conforme à la pratique médicale actuelle. Bon, donc une formulation un peu différente, mais qui est reliée à l'idée exprimée dans la pointe. Maintenant, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de ce phénomène-là. Je vais me contenter de deux, relativement récents. Mais sachez là qu'il y en a plus que... En fait, c'est pas anecdotique du tout. Là, on a énormément de décisions qui représentent ce niveau 1. Alors, un exemple parmi plusieurs, Fillon contre Quentin, c'est une décision de la Cour supérieure de 2012, dans laquelle on avait allégué une faute dans le choix de traiter une leucémie par irradiation crânienne. En fait, la preuve d'expert avait démontré, surtout la preuve d'un expert et la littérature scientifique qu'il avait produit, avait démontré qu'il y avait une incertitude quant au traitement approprié de la leucémie à l'époque, okay, incluant l'utilisation de l'irradiation crânienne. Les juges de la Cour supérieure, ou le juge de la Cour supérieure plutôt, nous dit « Les experts diffèrent d'opinion ici dans cette affaire quant au caractère raisonnable de l'irradiation crânienne. Le tribunal est conscient que dans l'examen de la conduite d'un médecin, il n'a pas, en présence d'opinions scientifiques divergentes sur le choix d'un traitement, à trancher ce différent. » Et donc, dans cette affaire-là, la Cour va conclure à l'absence de faute et de causalité, parce que les experts des défendeurs avaient réussi à démontrer que la complication qui avait été subie par le patient ici, en fait, le patient était décédé suite à une toxicité médicamenteuse, c'était vraiment une conséquence rare et imprévisible. Par contre, sachez que les experts de la demande avaient présenté l'opinion carrément contraire en tentant de démontrer qu'en fait, le risque de toxicité était très élevé. Le tribunal refuse de s'ingérer dans le débat d'experts et donc, évidemment, le demandeur perd sa cause. Un autre exemple très récent, MG contre Pinsonneau et Waddell, Cour supérieure 2014, c'est une affaire qui est en appel en ce moment et l'appel promet, c'est une belle affaire à suivre. Une allégation, entre autres, de faute dans le suivi d'un accouchement difficile. Alors, dans cette affaire-là, les médecins Pinsonneau et Waddell avaient décidé de ne pas procéder à une césarienne, de plutôt attendre et procéder à un accouchement par forceps moyen. Et ça s'était mal passé, donc ils ont été poursuivis. La Cour supérieure écrit la chose suivante. Les experts ont révélé des modes de pratique différents selon les milieux, les préférences professionnelles, les opinions personnelles, les écoles de pensée scientifique. En fait, la preuve démontrait qu'il y avait certains médecins très conservateurs. Le juge dit qu'ils sont défensifs, qu'ils vont procéder très rapidement à la césarienne. Allons-y, on ne prendra pas de risque, alors que d'autres médecins préfèrent attendre et essayer à tout prix là, de faire l'accouchement par voie naturelle. La Cour continue. Il y a là us et coutume professionnelle à l'abri du regard des tribunaux. Si l'obligation générale de prudence est respectée, le fait d'adhérer à une école de pensée plutôt qu'à une autre n'est pas constitutif de faute dans la mesure où l'école de pensée est conforme à la bonne pratique médicale et aux données acquises de la science. Alors, on pourrait continuer. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous mettre la citation. La voici. Donc, on pourrait continuer. On a quand même énormément d'exemples qui illustrent ce niveau. Niveau 2, le fait scientifique évident. Ici, on parle de décisions dans lesquelles le juge va prendre pour acquis ce qu'il considère comme un fait scientifique incontestable. C'est une tendance ou une attitude judiciaire qu'on a surtout observée en jurisprudence française. En fait, mon collègue a trouvé que cette situation-là, on la retrouve dans les contentieux dans lesquels le débat scientifique est très ancien, les données sont connues du grand public, les faits scientifiques deviennent un fait commun. C'est comme si le juge prenait connaissance d'office de certains faits scientifiques. Je n'ai pas vu cette situation dans la jurisprudence québécoise. Bon, évidemment, j'ai pas fini l'étude. Je n'anticipe pas la voir beaucoup. J'ai l'impression que ça ne joue pas un très grand rôle dans la décision judiciaire, mais je présume, et les praticiens dans la salle pourront infirmer ou confirmer, que le fait scientifique incontestable joue un rôle, mais un rôle extrajudiciaire, c'est-à-dire que si le fait scientifique dont dépend la preuve de la faute ou de la causalité est évident, bien, le litige ne va faire l'objet d'une transaction ou va faire l'objet d'un abandon, on ne va pas se rendre à procès, tandis qu'en France, les délais sont moins longs, les coûts sont moins grands, l'expert est un expert judiciaire, les parties n'ont pas à le payer, alors on se rend jusqu'à la cour et on plaide notre cause. Mais c'est mon hypothèse, évidemment. Dans mon bureau, sixième étage ici, c'est difficile à vérifier. Là, il faudrait en discuter avec ceux qui négocient ces affaires-là. Par contre, j'ai quand même tenté de vous trouver un exemple. Et l'exemple le plus proche de ce fameux niveau 2 que j'ai pu trouver, et c'est un exemple qui est imparfait, c'est l'affaire Spicer contre Canada, qui est une décision dont vous avez sans doute entendu parler en responsabilité environnementale, Cour supérieure 2012, en appel également. Dans cette affaire, le juge recherchait si la contamination d'une nappe phréatique à Shannon, une contamination au TCE par les forces armées canadiennes, avait causé certains cancers chez les demandeurs. C'était un recours collectif. Dans cette affaire-là, la Cour supérieure nous dit la chose suivante. Le consensus scientifique, et là, elle se base sur la preuve qui lui a été présentée à ce jour, sans être concluant, suggère la possibilité seulement d'un lien entre les cancers invoqués, les cancers du foie et des lymphomes non-Hodgkiniens, et le déversement de TCE. On commence comme ça. Un consensus scientifique, une possibilité de lien de causalité et non pas une probabilité. Mais la Cour nous dit que le litige ne doit pas se décider en fonction d'un consensus scientifique, mais plutôt sur la prépondérance des probabilités, qui exige par contre plus qu'une simple possibilité. Ensuite, la Cour va faire une étude très exhaustive de la preuve scientifique pour conclure à la non-démonstration de la causalité, mais sans revenir à la norme de preuve juridique. Et c'est la raison pour laquelle j'insère cette décision-là dans le niveau 2 tout en ayant certaines réserves. Et je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça. la doctrine a beaucoup critiqué cette décision sur la base suivante, sur le fondement du fait que le juge serait resté très accroché à la preuve scientifique, tout en déclarant que cette preuve scientifique doit être évaluée à l'aide de la lorgnette des règles de preuve. En bout de ligne, la preuve scientifique était monumentale dans cette affaire et en évaluant la causalité à la fin de la journée, at the end of the day, on est resté très, très proche de la preuve scientifique sans prendre le recul que les règles du droit de la preuve nous permettaient de prendre. Donc, je suis consciente que ce n'est pas un très bon exemple du niveau 2, c'est ce qui se rapproche le plus. Sachez par contre que dans cette affaire-là, il y a 23 experts qui ont témoigné. Tandis que les décisions françaises que mon collègue classe dans le niveau 2, on parle d'un juge qui s'appuie vraiment sur pratiquement aucune expertise, là, qui va aller chercher le fait scientifique incontestable et va l'introduire lui-même dans sa décision. Alors, niveau 2, pas très fréquent. Niveau 3. Alors, au Québec, on parle d'adhésion, de décision dans lesquelles le juge va faire un choix, le choix d'adhérer ou de rejeter une opinion scientifique. En France, comme je vous le disais, on va classer ici plutôt des décisions dans lesquelles le juge va adopter les conclusions de l'expert, donc va les intégrer dans sa décision. Donc, des décisions dans lesquelles le juge va assimiler les conclusions de l'expert, où il va utiliser l'expertise directement pour rendre son jugement, même si l'expertise est non concluante. Moi, je vais plutôt vous parler de l'attitude québécoise qui est assez répandue où, comme je vous disais, le juge va faire un choix d'accepter l'expertise, l'opinion ou de la rejeter. Donc, c'est une attitude judiciaire qui est fréquemment rencontrée en matière médicale et environnementale parce qu'évidemment, il revient aux parties de prouver et au juge de sous-peser la force probante des expertises et de la preuve scientifique qui est soumise. Celle-ci n'est pas prise pour acquis, donc il y a vraiment un jugement qui est posé par le juge à cet égard. Alors, c'est vraiment ce niveau 3, une attitude typique dans tout litige où une preuve d'expert multiple est présentée, quant à la causalité, mais également quant à la faute, disons que mes exemples sont plutôt, se situent plutôt au niveau de la causalité, et les décisions qui s'insèrent dans ce niveau-là, je les classifierais en trois catégories. La première étant les décisions dans lesquelles les tribunaux vont invoquer la force probante des expertises pour effectuer ce choix. Deuxième catégorie, les décisions dans lesquelles les tribunaux vont s'autoriser des enseignements de la Cour suprême du Canada pour choisir entre des expertises contradictoires sur la causalité, mais non pas en utilisant ou en invoquant leur force probante, mais plutôt en invoquant le fait que le contenu substantiel de l'opinion est en accord avec le portrait général qui est présenté en preuve. Et finalement, dans la troisième catégorie, ce que j'appellerais des quelques niveaux 3 à la française, où le juge va carrément simplement prendre une expertise, l'adopter sans discuter de force probante, sans entrer dans le contenu de l'opinion. On voit ça lorsque des experts présentent des opinions très fermes au tribunal ou quand les opinions d'experts d'une partie sont non contredites. Alors, prenons ces trois catégories. Une après l'autre. Premièrement, les décisions dans lesquelles le juge effectue un choix qui est fondé sur la force probante. Vous imaginez que ici aussi, les décisions sont innombrables. Quelques énoncés de principe. Tout d'abord, le premier de la jugerelle dans Ferland contre Gosne, une affaire de 2008 de la Cour d'appel du Québec. Elle cite en fait le juge Baudouin dans une décision précédente de la Cour d'appel dans laquelle il dit « Le fait d'accorder au témoignage d'un expert plus de poids que celui de l'autre ne suffit pas. » Donc, on doit aller plus loin comme juge de première instance. C'est le rôle du juge des faits d'apprécier la crédibilité d'un témoin, la vraisemblance et le poids relatif de son témoignage. Afin d'éviter tout soupçon d'arbitraire, le décideur doit expliquer les raisons qui motivent son choix. Je souligne ça parce que dans les décisions qu'on étudie, cette motivation, elle n'est pas toujours présente. La Cour continue dans l'affaire Ferland en disant « L'on s'attend d'un expert qu'il réponde de façon compétente, pondérée, objective. Il ne doit pas faire montre de partialité. » Bon, vous connaissez ces règles. Hein? Ce sont des règles qui sont issues du droit de la preuve. Et le juge peut s'en servir pour faire un choix parmi les expertises. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en responsabilité médicale ainsi qu'en responsabilité environnementale. Mais en responsabilité médicale, c'est une tendance très évidente. J'ai choisi de vous donner deux exemples. Le premier est tiré de la décision PL Conbanchetrit, qui est une affaire de la Cour d'appel du Québec de 2010. Je l'ai choisie particulièrement parce qu'elle a été décidée par notre ancien collègue, le juge Morissette, qui enseignait notamment le droit de la preuve ici. Alors, j'ai tendance à lui faire assez confiance sur le sujet. Il observe que dans cette affaire, les deux témoins, il écrit, bon, ceux qui connaissent ces jugements, vous allez reconnaître le style, il écrit « les deux témoins se contredisent ». Je dirais même qu'ils se contredisent avec conviction. C'est vraiment du Morissette. Alors, à ce stade, et pour reprendre les termes du juge Baudouin, alors on réfère au juge Baudouin encore une fois, le juge de première instance était libre de croire tel expert plutôt que tel autre, puisqu'il a le privilège de les avoir vus et entendus, et donc le pouvoir de leur attribuer la crédibilité qui s'impose. Bon, deux petits commentaires sur cette citation. Premièrement, le juge peut toujours préférer une expertise plutôt qu'une autre sur le fondement de la valeur probante. Cette prérogative n'est pas justifiée par le fait que les experts se contredisent. On s'entend, je pense que c'est quelque chose, une règle que vous connaissez tous. Et donc, ça, c'est une petite précision. Deuxième précision, bon, évidemment, le juge peut départager les expertises en invoquant la force probante, mais attention, au niveau 1, on se rappelle qu'en jurisprudence québécoise, le juge refuse de s'immiscer dans les débats scientifiques quant à la faute. Et donc, le juge doit être très vigilant de ne pas utiliser la force probante pour aller faire des choix dans les expertises qui ne seraient pas permis en vertu de la règle de neutralité judiciaire à l'égard de la faute. On pourra peut-être revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais ça, c'est une petite précision qui est importante à faire à ce stade-ci. Alors, un autre exemple, on va retourner en première instance, c'est l'affaire ES contre Ferenczi, Cour supérieure 2012. Donc, j'essaie vraiment de vous choisir des cas assez récents. C'est une affaire d'allégation de diagnostic fautif. En fait, on avait diagnostiqué un cancer alors que le patient ou la patiente, j'oublie, n'avait qu'un lymphome. Dans cette affaire, le juge va écarter pratiquement tous les experts de la défense, et il va nous dire les choses suivantes. Un premier expert a témoigné d'une époque révolue, alors on l'écarte. Un deuxième expert n'a pas d'expertise en cytologie, donc il n'a pas d'expertise pour témoigner sur la question qui est à trancher devant le tribunal. Un autre n'a pas produit de littérature scientifique à l'appui de son opinion, et en plus, il a témoigné de façon partielle, biaisée, tant par le ton, la présentation et la démarche. Un autre a produit de la littérature vieillotte, et donc, bon, on va écarter son expertise, la littérature invoquée n'est pas actuelle. Et enfin, on va préférer l'expert de la demande, qu'on considère comme étant nettement plus objectif, vraisemblable, bon, son opinion comme étant plus objective, vraisemblable, et bien fondée, on va trouver le pneumologue défendeur ici, fautif. J'aime bien cette décision parce que les doutes qui sont exprimés quant aux expertises de la défense, ces doutes-là sont fondés à la fois sur des raisons qui ont à voir avec les conditions d'admissibilité de la preuve, mais on invoque également des raisons qui ont plutôt à voir avec la substance scientifique de l'opinion en notant le manque d'actualité d'une opinion scientifique, le manque d'appui sur la littérature. Alors, c'est un beau mélange ici de substance et d'invocation des règles de preuve. Bon, alors je pourrais multiplier les exemples ici. C'est vraiment une tendance lourde en jurisprudence québécoise lorsque des questions scientifiques sont en jeu. On a parlé, Frédéric et moi, cet après-midi, des raisons pour ça. Évidemment, pour un juge, invoquer la force probante, invoquer les règles de preuve, c'est confortable. Hein? Les juges de première instance sont des experts à ce niveau-là. Bon, alors les exemples pourraient être multipliés, c'est vraiment un type d'évaluation qui fait partie de la fonction judiciaire de première instance, vu les nombreux experts qui sont habituellement présentés dans des affaires où on doit tenir compte de faits scientifiques complexes. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se produire sous le nouveau code de procédure civile qui met de l'avant l'expertise commune comme méthode de présentation par défaut de la preuve technique. Bon, si vous avez eu la chance de lire les nouvelles dispositions qui, il semblerait, vont entrer en vigueur peut-être au début de 2016, en tout cas on pense, Si vous lisez les dispositions pertinentes, je vais vous les montrer dans un instant. Vous allez voir quand même qu'il est possible de faire exception à cette règle de présentation d'une expertise commune. Et d'ailleurs, l'ACPM, l'Association canadienne de protection médicale, qui est un assureur non corporatif pour à peu près 95% des médecins canadiens, s'est vraiment opposé à cette imposition de l'expertise commune, notamment en soulignant le fait qu'en matière médicale particulièrement, il est très important de présenter au tribunal les controverses scientifiques et les divergences en différentes écoles de pensée, et croyant que l'expert commun ne sera pas en mesure de faire cette présentation-là. Alors, peut-être prenons quelques instants pour regarder ces dispositions du nouveau Code de procédure civile. L'article 148, qui exige que les parties doivent indiquer au protocole d'instance les motifs pour lesquels elles n'entendent pas procéder par expertise commune, donc on doit se justifier si on décide de ne pas le faire. L'article 158, qui permet au tribunal d'office ou sur demande d'imposer l'expertise commune. Il y a des conditions qui sont reproduites ici, mais cette possibilité d'imposer cette expertise commune. Et l'article 232, qui précise que qu'elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d'une expertise par discipline ou matière. Donc, on veut vraiment resserrer les choses et rendre le processus plus efficace. Alors, il va vraiment falloir voir comment ces nouvelles règles vont trouver application en matière médicale, environnementale, dans toutes les affaires où une preuve technique scientifique complexe est impliquée. Est-ce qu'on va systématiquement faire exception à ça? On sait que ces dispositions-là sont inspirées d'une réforme britannique. Et en Grande-Bretagne, on fait régulièrement exception à ces règles-là en matière médicale notamment. Donc, il faudra surveiller ça et voir si notre fameux niveau 3 ne va pas se transformer à l'avenir. Alors, une chose à suivre. OK. Alors, je vous avais dit que mon niveau 3 était décortiqué en trois parties. Deuxième partie, le juge qui fait un choix dans l'étude de la causalité quant à l'hypothèse causale probable, en ne regardant non pas la force de l'expertise en fonction des règles de preuve, mais vraiment en entrant dans la substance de l'opinion. L'énoncé de principe là-dessus nous provient de l'affaire Saint-Jean contre Mercier, une affaire de 2002 de la Cour suprême du Canada, affaire de responsabilité médicale, encore une fois, où la Cour suprême nous a dit la chose suivante. Le juge de première instance doit déterminer si la preuve s'appuie selon la prépondérance des probabilités. Si la preuve appuie, pardon, selon la prépondérance des probabilités, une constatation de causalité. Il ne suffit pas de dire qu'il existe des théories médicales opposées sur le lien de causalité et qu'il n'appartient pas au tribunal de trancher. Alors, le niveau 1, quant à la causalité, est mis de côté. On demande au juge de première instance de trancher entre des hypothèses contradictoires au niveau de la causalité. La Cour continue ici, je veux juste lire les dernières lignes. Dans l'analyse du lien de causalité, c'est une erreur pour le juge de première instance de conclure qu'il ne lui appartient pas de rendre une décision finale en présence de théories opposées, toujours quant à la causalité. Et enfin, la Cour nous dit que le principe de neutralité judiciaire a sa place dans l'analyse de la faute. Cependant, on ne doit pas l'invoquer sur des questions de causalité et ainsi s'abstenir de déterminer si le lien de causalité est établi selon la norme juridique de la prépondérance des probabilités. On reprend cet énoncé-là dans l'affaire CL contre Saint-Arnaud, Cour supérieure 2011, confirmée en appel en 2013. Je lis intégralement, mais c'est parce que c'est un beau texte qui dit bien les choses. Le rôle du tribunal n'est pas d'écrire un traité de médecine ni d'émettre une opinion scientifique, mais de juger une situation complexe en fonction de toute la preuve et du droit. Les mots sont très importants ici. Le tribunal ne recherche pas la certitude scientifique, mais la vérité juridique, donc ce n'est pas la même chose. Il tire ou ne tire pas des conclusions factuelles selon la prépondérance des probabilités. Ce que la science verrait comme un lien de causalité incertain pourrait cependant être suffisamment probable pour atteindre le degré de conclusion juridique. OK? Et là, on invoque le fait que le décideur judiciaire ne doit pas se cacher derrière l'incertitude pour omettre de juger. Donc, très porteur, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de façon très surprenante, il y a très peu de mise en œuvre de ces principes-là dans la jurisprudence qu'on a étudié dans le cadre du projet. En fait, la tendance prédominante, c'est la précédente. On va évoquer la force probante pour faire un choix, mais on ne va pas évoquer ces enseignements de la Cour suprême du Canada pour faire un choix quant à l'hypothèse causale qui serait probable à la lumière de l'ensemble de la preuve et des faits au dossier. Un exemple, par contre, l'affaire CL contre Saint-Arnaud, je vous en ai pas parlé, alors voici les faits. Le juge dans cette affaire-là, c'est encore une affaire d'accouchement difficile. Le juge devait évaluer une faute dans le suivi d'un accouchement prématuré et le lien de causalité entre un retard de la part du médecin de se présenter et de faire certains examens auprès de la femme en question et des dommages qui avaient été suivis par la suite. Alors, la Cour, dans cette affaire-là, va retenir l'opinion de l'expert de la demanderesse sur la causalité en disant qu'elle est la plus probable et la plus en harmonie avec l'ensemble du tableau clinique. Et là, je ne vous l'ai pas reproduit, mais le juge va nous lister une série de faits scientifiques mis en preuve qui, à son avis, vient appuyer l'hypothèse scientifique de l'expert du demandeur. Et par la suite, on va reprendre les enseignements théoriques en nous disant que sur les questions scientifiques, le tribunal doit être éclairé par les experts, mais il n'est pas lié par les opinions d'experts, parce que les experts fondent leur opinion sur une méthodologie et une rigueur qui vont au-delà du standard qui est exigé par la loi. La science s'exprime en termes de certitude, le droit ne parle qu'en termes de probabilité, d'où la valeur relative de la preuve d'expert devant le tribunal. Et on rappelle que, bien entendu, sur des questions scientifiques, leur opinion est quand même importante. Okay? Alors, le juge va nous rappeler que même s'il y a plusieurs opinions divergentes dans une affaire pour expliquer un phénomène, ça ne doit pas empêcher le tribunal de décider. Il doit supposer analyser toute la preuve pour trancher la question. Il s'agit là de la fonction judiciaire dans sa pratique quotidienne. Et c'est ce qu'il va faire. Okay? Il ne va pas invoquer le droit de la preuve. Il va vraiment aller chercher, décortiquer la preuve scientifique pour en venir à la conclusion qu'une opinion est plus en accord avec les faits scientifiques mis en preuve que l'autre. Sachez que c'est une décision du juge François Tott. Le juge François Tott a été mon prof à l'Université de Sherbrooke. C'est un spécialiste de la responsabilité médicale. Il connaît son affaire. On y reviendra sur cette décision. C'est un juge qui maîtrise quand même assez bien les données scientifiques. Donc, on peut se poser la question de savoir si lui s'est lancé dans cette aventure parce que, justement, il s'y sentait plus à l'aise. Classiquement, je le répète, je l'ai déjà dit, le choix se fait sur la force probante la plupart du temps, mais pas ici. Et on va se demander, en fait, dans quelques instants, si on n'aurait pas un niveau 5 ici. J'y reviendrai tout à l'heure. OK. Alors, il me reste 10 minutes à peu près. Je vais vous parler brièvement de ma troisième sous-catégorie dans le niveau 3, qui est ce que j'ai appelé niveau 3 à la française, là, le juge qui s'en va vraiment prendre une expertise, qui l'adopte sans vraiment justifier ce choix-là en invoquant les règles de la preuve ou en invoquant les enseignements de la Cour suprême dans Saint-Jean contre Mercier, donc sans regarder nécessairement la substance de l'opinion. Bon, ici, je dois vous avouer, c'est un petit peu anecdotique, OK? J'ai deux décisions, deux exemples. Il y en a quelques exemples supplémentaires à prendre avec un petit grain de sel. Alors, l'adhésion aux opinions fermes, l'affaire ES contre Ferenzi, alors vous vous souvenez, là, c'est l'affaire dans laquelle on avait diagnostiqué un cancer au patient alors qu'il avait un lymphome. Et au niveau de la causalité, on a dû se demander, si on avait bel et bien diagnostiqué le lymphome, comme on aurait dû le faire, quel aurait été le traitement, quel aurait été le résultat, aurait-il été positif? Donc, on évaluait la causalité. Et voilà ce que la Cour nous dit. Elle va vraiment faire un choix, mais elle nous dit la chose suivante. Bon, docteur Lafontaine, pour la défense, il aurait consulté avant de décider quoi faire. Docteur Renzi, ambivalent dans son opinion. Les deux autres docteurs, Lucie et Gaboury, ils sont restés silencieux sur la question. Mais les docteurs Godin et Couture et Vaillancourt pour la demande ont déclaré sans hésitation que le traitement approprié face au lymphome du poumon était la chimiothérapie. Parfait. J'adopte cette opinion-là. Donc, on a décidé ici de retenir cette opinion qui était beaucoup plus ferme, moins ambivalente et de trouver une relation de cause à effet entre le dommage qu'avait subi la demanderesse et la faute qui résultait du diagnostic erroné qui avait mené à une chirurgie qui était non indiquée. Bon, quelque peu anecdotique, je dois vous dire, assez particulier. Un petit exemple d'adhésion aux opinions non contredites, l'affaire AQ contre Hôpital Fleury. Dans cette affaire-là, on évaluait toutes sortes de fautes quand même assez diverses de la part d'infirmières, d'un médecin et la causalité dans le cadre de la pose d'un tendon artificiel. Bon, les faits ne sont pas tellement importants. Dans cette affaire-là, le tribunal nous dit la chose suivante, je dois vraiment choisir entre la version des faits qui est mise l'avant par le demandeur. En fait, le demandeur avait décidé d'invoquer les présomptions de faits et avait dit, moi, j'ai pas besoin de présenter une preuve d'expert. C'est pas normal qu'après avoir eu cette opération-là, je me retrouve dans une situation préjudiciable. Donc, j'invoque les présomptions de faits, je me présente sans expert. Et la Cour dit, bon, je dois choisir entre cette position-là, qui est défendue, qui est argumentée par le demandeur sans expert, et celle des médecins défendeurs et de leurs experts. Je n'ai aucune hésitation à préférer cette dernière en l'absence d'opinion professionnelle contraire. Et, bon, la question que je me pose ici, c'est la suivante. Est-il possible? Je me pose cette question-là parce que j'ai d'autres manifestations similaires à cette affaire. Est-ce qu'on assiste, en fait, à une étude moins approfondie de la force probante et du contenu des opinions d'experts lorsque ces opinions sont non contredites? Bon, c'est une question que je lance. J'ai pas vraiment la réponse à cette question. Voilà. Alors, niveau 1, niveau 3, prédominant, vous devinez que niveau 4 et niveau 5, on va passer assez vite. Niveau 4, l'émancipation du juge. Alors, ça, c'est un niveau créé par mon collègue français. un niveau auquel on va très peu s'identifier au Québec, qui est assez intéressant, mais qui ne résonne pas très, très bien dans notre contexte. C'est vraiment un niveau dans lequel le juge va se détacher de l'opinion de l'expert et va traiter les données scientifiques comme des faits bruts. Donc, il va vraiment aller directement à la source sans passer par l'expert. Mon collègue a observé ça en jurisprudence française. Il a trouvé des décisions dans lesquelles le juge prend totalement son autonomie par rapport à l'opinion de l'expert judiciaire qui lui est présenté, où le juge va entrer en contact direct avec les faits scientifiques. Il va décrire les faits comme un scientifique le ferait et va indiquer de façon prescriptive quelles sont les bonnes pratiques médicales s'il est en train d'évaluer la faute, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas vu ça du tout en jurisprudence québécoise. Les juges québécois ne semblent pas aborder la preuve scientifique comme ça directement ou d'office, indépendamment de l'opinion de l'expert. On voit vraiment un effort pour toujours référer à l'expert, parler, mais à travers la bouche de l'expert. Je vous ai mis ici les dispositions du Code de procédure civile qui expliquent ça, mais bon, je pense que c'est un phénomène assez naturel. Et voilà, niveau 4, c'est tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne le droit québécois. Et je termine avec le niveau 5. Le juge se mue en scientifique. Il dit la science. Il prend position. Il gère le débat scientifique. Il le règle. C'est assez particulier. C'est une tendance qu'on a, en fait, que mon collègue a beaucoup observée en France de façon très étonnante. Il l'a observée dans des cas où le juge est confronté à une controverse scientifique et où, dans certaines décisions, il a remarqué que le juge ne va pas se contenter de constater les faits. Il va vraiment produire un raisonnement scientifique à partir de la combinaison des faits qu'il a devant lui ou devant elle, et où on va même assister à des controverses scientifiques entre juges. Alors, on a des affaires où la cour d'appel va dire la science, et va dire, bon, tel lien existe entre tel vaccin et telle condition. La Cour de cassation va dire « Non, 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 scientifiquement, ce lien n'existe pas. » En France, évidemment, la Cour de cassation retourne l'affaire à la Cour d'appel pour nouvelle décision. La Cour d'appel dit ben, « Non, non, vous n'avez rien compris à la science. La science est à l'effet que X, Y, Z. » C'est très, très, très amusant à lire. Évidemment, on n'a pas ça ici. C'est une tendance presque inexistante devant les tribunaux québécois. Mais j'ai trouvé deux cas. Encore une fois, je dois vous avouer, ils sont anecdotiques, il faut que je vous le dise, mais je les aime quand même beaucoup, je vais vous les présenter. Le premier, bon, il me fait rigoler un peu, le deuxième est un petit peu plus marquant. ST contre Dubois, une affaire de 2008, on avait allégué une faute lors d'un test de clarté nucale. Alors, un test qui est effectué pendant la grossesse pour déterminer si le fœtus est affecté de trisomie 21. Alors, c'est un test de clarté nucale qui avait été effectué en 1999. Et, bon, on n'avait pas détecté de problème chez l'enfant. L'enfant est né avec une trisomie 21. Et, en fait, on devait... il y avait vraiment une controverse scientifique devant le tribunal quant aux techniques de dépistage génétique de l'époque, en 1999. Donc, vous voyez, la décision, quand même, là, c'est 10 ans plus tard. On a conclu à l'absence de faute dans cette affaire-là. C'est vraiment une affaire qui se situe dans le niveau 1. Il y a une controverse scientifique quant aux meilleurs standards de dépistage. Le juge ne s'immisce pas. Le demandeur perd. C'est aussi simple que ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'extrait suivant. La Cour va vraiment prendre avec un gros grain de sel la preuve d'expert de la défense. Et voici pourquoi. La Cour nous dit, plusieurs experts entendus, lisez, là, c'est les experts des défendeurs, de la défendresse dans cette affaire-là, pratiquent à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un grand centre spécialisé mère-enfant. Il est évident que les experts entendus qui pratiquent à l'hôpital Sainte-Justine sont animés par un souci exemplaire de perfectionnement et de progrès scientifique, par la recherche et l'usage de toutes les nouvelles approches et techniques. Ils bénéficient de ressources, de moyens techniques et scientifiques que l'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on ne retrouve que dans les grands hôpitaux universitaires. Bon, la défendresse dans cette affaire-là, elle pratiquait dans un centre régional. Et donc, la Cour, bon, je vous épargne le reste, mais vraiment, la Cour va donner un poids aux expertises respectives en référence au milieu, au contexte de la pratique de ces experts, et en fait, va mettre un petit peu de côté, ou va y mettre des doutes quant à l'expertise de la défense. On sait que la défense va gagner en bout de ligne, mais elle va y mettre des doutes quant à l'expertise de la défense, parce que ces experts-là sont ultra spécialisés, travaillent dans un centre vraiment qui bénéficie de ressources et ont des connaissances qui dépassent ceux du médecin moyen. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y a aucune opinion d'expert qui est citée pour appuyer cette prise de position. En fait, on semble prendre le perfectionnement des médecins de l'hôpital Sainte-Justine comme étant connu d'office. Et c'est peut-être correct, là, je pense qu'on s'entend, on le sait tous, là, que c'est un grand centre. Est-ce qu'on a un niveau 2 ici? Vous vous souvenez du niveau 2? Le juge accepte les faits scientifiques incontestables. Est-ce que ça, c'est un fait scientifique incontestable? Ou est-ce que le juge a décidé comme ça, juste sur la base de sa propre connaissance personnelle et de sa propre familiarité personnelle avec l'hôpital Sainte-Justine, que les experts qui proviennent de cet hôpital-là sont hyper perfectionnés et ne donnent pas une opinion qui est représentative de ce qui est raisonnable pour le médecin ordinaire qui pratique à Drummondville? OK? Alors, c'est une question que je me pose. Mais c'est l'affaire MG contre Pinsonneau que je trouve la plus intéressante. Quant au niveau 5, vous vous souvenez, c'est l'affaire dans laquelle des médecins ont décidé de procéder par un accouchement par forceps moyen. C'est quand même une technique qui est difficile à effectuer et elle a été très difficile dans ce cas-là, plutôt que d'envoyer la mère en salle d'op pour une césarienne. Le jugement inclut une section intitulée « Obstétrique 101 ». Dans laquelle le juge réfère aux experts et à la documentation scientifique produite, mais c'est pas toujours clair d'où viennent les données scientifiques qui exposent. C'est une espèce de mini-traité de l'obstétrique. On imagine qu'il s'est fondé sur la preuve d'expert, mais il va pas toujours nous dire d'où vient l'information. Et le juge utilise un langage fort technique tout au long du jugement. Et ça me fait un peu de la peine de critiquer mon ancien professeur, mais bon, je vous rappelle que c'est quand même un juge qui a eu une carrière en responsabilité médicale, donc qui a l'habitude qui est peut-être un peu plus spécialisé que la moyenne. Mais c'est vraiment un jugement où on voit que le juge semble mettre un pied dans le droit et un bon pied dans la science et va nous dire la science directement. Okay? Allez lire ça si ça vous intéresse. C'est assez fascinant à lire cette décision. On va voir ce que la Cour d'appel va nous dire là-dessus. Alors, conclusion. Les conclusions de mon collègue français, qui n'est pas là pour les défendre, il constate la chose suivante. La thèse du fossé entre le juge et la science, à son avis, n'est pas corroborée en France par l'analyse des décisions de justice qu'il a sélectionnées jusqu'à maintenant. N'oubliez pas qu'on n'a pas fini de les lire. Ce qu'il constate, c'est que le juge comprend les faits scientifiques, il les décrit, il se les approprie, il raisonne scientifiquement. Le raisonnement probatoire et le raisonnement scientifique sont, à son avis, de même nature. C'est quand même un énoncé très fort. Et donc, loin de se tenir à distance de la science, le juge va vraiment s'immerger dans l'univers scientifique et s'y comporte parfois comme un acteur. Au Québec, moi, je constate vraiment une variabilité de la relation entre le juge et la science. D'un côté, le juge va faire montre d'une certaine distance par rapport à la preuve scientifique et de respect en refusant de s'immiscer dans les débats scientifiques concernant les standards de pratique, en ne se prononçant pas à l'encontre d'un fait scientifique clair, en parlant de science à travers les experts, sauf de rares exceptions. L'affaire Pinsonneau en étant une. Mais le juge va faire preuve d'autonomie. Il est prêt à mettre de côté les opinions scientifiques des experts en utilisant sa liberté d'évaluer leur force probante, qui peut dépendre de facteurs d'admissibilité, de facteurs scientifiques ou du degré de conviction de l'expert. Mais la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que le juge fait véritablement preuve d'autonomie dans l'évaluation de la substance des hypothèses causales en jurisprudence québécoise? J'en doute un peu, je dois vous avouer, parce que même si la Cour suprême du Canada exige du juge de première instance qu'il prenne position parmi des théories causales différentes, les débats d'experts en première instance sont souvent réglés par l'appréciation de la force probante des opinions quant à la causalité. Et je m'aventure en ouvrant peut-être une boîte de Pandore en vous disant que j'en ai peu parlé, mais l'incertitude causale, qui est quand même rare devant nos tribunaux, on règle probablement, on abandonne ses affaires avant de se rendre devant le juge, tend à être abordé par le biais de la preuve par présomption de fait, mais en fait avec de rares succès pour les demandeurs. J'ai rajouté ça, même si ça n'a pas été le sujet de ma présentation, parce qu'il fallait que je vous laisse en vous parlant d'une exception très récente, l'affaire Saint-Germain contre Benahim, que la Cour d'appel du Québec a rendu le 15 décembre 2014, ça n'a rien à voir avec le traitement de la preuve scientifique par le juge, mais c'est une décision dans laquelle il y avait une incertitude scientifique qui empêchait d'évaluer la causalité et où les juges majoritaires de la Cour d'appel, par un souci avoué de justice et d'équité envers les parties dans les affaires de responsabilité médicale où la preuve est de la causalité scientifiquement complexe, ont surmonté l'incertitude, ont inféré la causalité sur la seule base d'un élément de preuve statistique. Parce que, et c'était la justification pour se fonder sur ce seul élément-là, l'incertitude causale dans cette affaire, elle avait été causée par la faute des défendeurs. Alors, dans cette affaire-là, le patient était décédé d'un cancer pulmonaire qu'on n'avait pas traité à temps, et on ne savait pas si au moment où on a omis de traiter le cancer fautivement, on ne savait pas à quel stade de son cancer il était rendu. Donc, on ne savait pas si avec un traitement, il aurait survécu. La Cour nous dit, on ne connaît pas le stade du cancer parce que vous n'avez pas effectué les tests que vous auriez dû effectuer à ce moment-là. Vous avez causé l'incertitude scientifique. C'est votre faute. Donc, on va inférer la causalité en utilisant un fait statistique. Je vous épargne les détails. Mais on va surmonter cette incertitude-là de façon très favorable à la demanderesse. Et on va accorder des dommages. Les tribunaux disent 1,7 million, là, mais en tout cas, il y a un calcul complexe à faire ici. Donc, je voulais juste vous laisser en vous mentionnant cette décision-là, qui est une décision quand même intéressante dans le domaine et qu'il faudra suivre parce que, à mon avis, ça s'en va à la Cour suprême du Canada. Donc, on verra ce qu'il y en est. Et j'arrête, j'ai dépassé mon temps, je crois.
Merci, merci beaucoup, Lara. On a seulement 2 minutes, alors je vais rendre jugement.
15. J'ai respecté.
Non. 5 ou 10 minutes. Alors, je suis prêt à rendre jugement et je déclare que les juges québécois ont raison. Je pense quand même. Mais je trouve les juges français audacieux à certains égards. Je pense que l'affaire Pinsonneau est intéressante. On comprend le juge qui est un ancien prof, un spécialiste dans le domaine, etc. Et tout. Puis je crois pas que le juge est nécessairement fautif lorsqu'il s'approprie le langage puis les méthodes d'analyse du scientifique, mais c'est sûr qu'il s'aventure sur un terrain glissant parce que les risques d'erreur, je pense, sont accrus, puis les risques, la légitimité de sa décision en souffle sont réels, puis ils sont quand même plus importants. Niveau 4, le juge qui lui-même, alors ça, c'est le juge qui va sur Google, qui va chercher de l'information scientifique, qui l'intègre dans son raisonnement sans revenir vers l'expert, ça me semble indéfendable, avec égard pour nos collègues juristes français. Moi, la question que je me suis posée et qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir s'il y avait une explication rationnelle, convaincante et cohérente pour expliquer là, cette distinction-là entre le refus d'immixtion, le niveau 1, donc au niveau de la refus d'immixtion dans l'analyse, l'évaluation d'opinions scientifiques divergentes au niveau de la faute, d'une part, et l'absence d'un refus d'immixtion, donc une attitude beaucoup plus proactive des juges en ce qui a trait à la causalité. Puis je me suis demandé, mais est-ce que ça tient la route? Puis je crois que oui, parce que Dans le premier cas, l'objet du débat est une norme, hein, le standard de conduite, alors que dans le deuxième cas, l'objet du débat est un fait. La causalité, c'est un fait brut par opposition à une norme. Puis je pense qu'il y a une certaine logique qui tient la route là, dans l'attitude des juges en matière de faute qui, a priori, pourrait paraître un peu trop conservatrice, mais il y a une certaine logique dans l'idée qu'on délègue finalement aux professionnels le pouvoir normatif de déterminer quels sont les comportements qui sont acceptables. Puis je pense que c'est indéniable que le juge de la Cour supérieure, qui est un généraliste, n'est sûrement pas un acteur normatif particulièrement bien situé pour déterminer ce qui est un comportement d'un professionnel de la santé qui est acceptable ou non. Donc, il y a une espèce de logique d'autoréglementation, même si ce n'est pas comme ça que la Cour suprême l'explique dans Le Gardeur. Elle ne fait que dire... Bien, le juge n'est pas équipé, n'est pas compétent pour trancher ce débat-là, qui n'est pas une justification en soi, parce que s'il est compétent pour trancher une controverse scientifique complexe en matière de causalité, il devrait l'être aussi en matière de faute, mais je pense que c'est au niveau de la distinction quant à l'objet du débat que là, il y a une distinction qui, selon moi, tient la route. Alors,
oui, puis tu fais ton dernier commentaire est bon, parce qu'en théorie, moi, je pense que ça tient la route, mais en pratique, il faut savoir que, puis on le voit en médical comme en environnemental, la preuve sur la causalité, la preuve scientifique est vraiment très complexe. Pensez ouais. à Spitzer, là, on a des experts dans toutes sortes de domaines, en épidémiologie, en toxicologie, etc., 23 devant le juge.
Il y avait vraiment 23 experts?
Il y avait 23 experts, de la preuve vraiment très complexe. Et là, on dit au juge, la preuve d'expert, elle est importante pour prendre la décision, mais attention, la causalité, c'est une notion juridique, elle est décidée selon la prépondérance de preuve, les experts que vous entendez ne raisonnent pas de cette façon-là, vous devez tenir compte de l'ensemble des faits. Et là, le juge doit prendre cette preuve scientifique, la digérer, la comprendre, puis ensuite s'en éloigner pour prendre une décision qui est juridique, mais qui s'inspire de cette preuve complexe. Donc, en pratique, moi, je suis critique du fait que les juges vont s'appuyer sur la force probante pour prendre ces décisions-là. Je suis critique de ça. Mais je les comprends parce que, sincèrement, la mission qui est donnée par la Cour suprême dans ces affaires-là, elle est difficile à accomplir. Alors, mais je pense que théoriquement, moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est important de réaliser que notre compréhension de la causalité, elle n'est pas la même que la compréhension que les scientifiques ont de la causalité. Et certains se plaignent de ça, en fait. Certains se plaignent du fait que nos juges ne s'intéressent pas assez à l'épidémiologie, aux probabilités, à la preuve probabiliste, et qu'ils devraient s'y intéresser beaucoup plus et rendre des décisions au niveau de la causalité qui sont peut-être plus alignées sur la science. Alors ça, c'est une critique qui est quand même formulée.
On pourrait poursuivre la discussion longtemps, mais on arrive à la fin de la séance. Je voudrais vous laisser l'opportunité de poser une question, une brève intervention pour conclure. On a les micros qui circulent. Allez-y.
Le voilà. Est-ce qu'il y a une distinction à faire dans l'étude des causes qui impliquent des questions d'expertise médicale ou scientifique rattachées à ce genre de problématiques ou d'autres genres d'expertise? Je vous donne une anecdote, là. Le juge en chef adjoint qui me raconte qu'une juge est appelée à trancher des opinions d'expertise sur si ou non un train d'atterrissage d'un avion est bien conçu.
Ah ouais.
Alors, la juge doit décider, mais selon le juge en chef adjoint, la juge ne veut pas voler dans ce genre d'avion, peu importe sa décision. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à porter?
Oui, je pense, puis j'irais même plus loin. Bon, évidemment, je n'ai pas fait l'étude approfondie que j'ai fait ici, mais on discutait cet après-midi même de l'utilisation de la preuve en sciences sociales par les tribunaux, puis comment on va assimiler ou gérer cette preuve-là, et comment est-ce que le juge est équipé pour comprendre certaines nuances qui peuvent expliquer ou interpréter certaines conclusions d'études qui sont dans des domaines qui sont peut-être plus faciles à aborder. Mais pour y revenir sûrement, moi, je pense que cette discussion-là, moi, je me concentre sur le médical, l'environnemental, parce que c'est ma spécialité, mais dès qu'on est dans matière technique, je pense qu'on va faire face à des défis similaires, à mon humble avis. Ouais.
Le juge est équipé pour poser la question, pour peut-être poursuivre l'enquête, mais pas pour trancher de manière indépendante. Je pense que le débat contradictoire, le principe du contradictoire est fondamental et c'est peut-être ce que les juges français semblent avoir perdu de vue. On se revoit dans un mois, fin février, pour une séance hyper intéressante sur la bonne foi et le contrat, perspective civiliste et de common law. Merci beaucoup.